7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 11 janvier à la une ce matin. Les gilets jaunes, que faut-il attendre à la veille de la 9e journée de mobilisation? On fera le point dans toutes nos éditions. À 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy. 7h45, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, mon invité, en direct depuis la cité phocéenne, parce que c'est lui qui a lancé la cagnotte sur Internet en soutien aux forces de l'ordre, des policiers particulièrement hackés à la veille de ces nouvelles manifestations. Et puis, augmentation des prix des péages au 1er février, des radars vandalisés. À 8h15, Audrey Crespo-Marin interrogera la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Voilà pour le sommaire. On est ensemble jusqu'à 9h. Je vous souhaite un excellent réveil. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 11 janvier. Excellent réveil à tous. Il est 7h. Et votre matinée à l'info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Paris, Lyon, Marseille et pourquoi pas Bourges. Certains gilets jaunes appellent à manifester dans la ville du Cher demain et les habitants comme le maire craignent des débordements. Haro sur les radars, selon les informations d'Europe 1, ils ont été 4 fois plus vandalisés en 2018 que l'année précédente. Des dégâts évalués à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis un Mistral à rendre fada, un vent qui souffle depuis maintenant 2 semaines non-stop dans la vallée du Rhône et notamment à Marseille, où les bateaux de pêche sont bien chahutés.
Europe 1.
La tranquille ville de Bourges se retrouve sous les projecteurs. Elle pourrait en effet devenir l'épicentre du mouvement des Gilets jaunes demain. Projet relayé par plusieurs figures comme Priscilla Ludowski ou Maxime Nicole. Pourquoi Bourges? Pour sa position géographique en plein centre de la France, ce serait plus simple pour les manifestants. Jean-Jacques Herry a rencontré des bourgeois plutôt inquiets à l'idée d'un déferlement de Gilets jaunes sur leur ville.
À Bourges, deux questions reviennent sur toutes les lèvres. Combien seront-ils de gilets jaunes demain à manifester? Et cela entraînera-t-il des violences? Et comme personne n'a la réponse, eh bien le maire de la ville, Pascal Blanc, préfère prendre les devants.
Effectivement, plusieurs milliers de manifestants peuvent poser des problèmes gérés d'organisation et de sécurisation. On n'a pas des grandes avenues, on n'a pas des Champs-Élysées sur Bourges. Il faut limiter le risque. Certains jardins seront fermés. On est en train de démonter les mobiliers urbains et les corbeilles de rue. Ce sont des orodateurs qui pourraient servir de projectiles.
Le trajet supposé du cortège devrait éviter les petites rues pavées et les boutiques du centre-ville. Stéphane Jacquet, le président des commerçants, préfère donc temporiser.
Il ne faut pas psychoter non plus. On a suivi une ligne directrice comme quoi on allait tout s'ouvrir. C'est quand même le samedi des soldes, il faut savoir que c'est le 3e plus gros samedi de l'année. Et pour certaines boutiques, c'est juste pas possible de fermer, quoi.
Mais à quoi ça sert d'ouvrir si les clients ne viennent pas? Se plaint Annick, la bouchère.
Nous, en boucherie, on a beaucoup de commandes pour le samedi. Ça a été annulé, c'est reporté au vendredi. On va peut-être travailler samedi matin, et encore très peu, mais pas samedi après-midi.
Pour essayer de combler un éventuel manque à gagner, les commerçants pourront exceptionnellement ouvrir dimanche. Bourges, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et vous aurez bien sûr rectifié, les habitants de Bourges, ce sont les berruyers. D'autres rassemblements sont annoncés à Bordeaux.
Il y a des bourgeois aussi,
bien sûr. D'autres rassemblements sont annoncés à Bordeaux, Marseille, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes ou Rennes. Rappelons que 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 à Paris. Et puis, à noter que la cagnotte de soutien aux forces de l'ordre dépasse ce matin le 1 300 000 euros. 50 000 personnes ont déjà participé.
Et son initiateur, le président de la région PACA, Renaud Muselier, sera notre invité à 7h45.
Ils sont la cible de toutes les colères. Ce sont les radars automatiques. Près de 60% ont été vandalisés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qu'annonçait Christophe Castaner hier. Avec un lien de cause à effet, les excès de vitesse qui ont bondi de 20% en décembre. Mais Europe 1 peut vous révéler un autre chiffre ce matin. Il porte cette fois sur l'ensemble de l'année 2018. 4500 dégradations de radars, c'est 4 fois plus qu'en 2017. Guillaume Bia, et ça a commencé dès le début de l'année.
En fait, dès la confirmation du futur passage aux 80 km/h, là, les dégradations de radars se sont multipliées, 2 fois plus nombreuses que l'hiver précédent. Ensuite, elles ont connu un premier pic durant l'été, lorsque l'abaissement de la vitesse est réellement entré en vigueur. Et puis un second pic, là, à l'automne, avec les gilets jaunes. Un exemple, rien qu'en novembre, il y a eu plus d'attaques de radars que durant toute l'année 2017, rendez-vous compte. Bilan, d'après nos informations, les forces de l'ordre ont recensé plus de 4500 actes de vandalisme sur les radars l'an dernier, c'est 4 fois plus que l'année d'avant. Évidemment, certains appareils ont été dégradés plusieurs fois. Au total, plus de 600 radars ont été entièrement détruits, c'est du jamais vu. Alors ces chiffres, la sécurité routière refuse obstinément d'en parler. Idem pour le coût de ces dégradations. D'après nos calculs, cela représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Sachant que le phénomène continue actuellement, et là le silence de la sécurité routière n'y change rien, depuis des semaines, chaque nuit, un à deux radars sont détruits.
Guillaume Biais. Et puis on l'apprend ce matin, Carlos Ghosn est à nouveau mis en examen, cette fois pour abus de confiance et revenus minorés. Le patron de Renault, dont l'avocat demande la libération sous caution. Europe 1, il est 7h05.
Les sénateurs veulent réentendre Alexandre Benalla.
Il s'agit cette fois de l'affaire des passeports diplomatiques qu'il a depuis rendu. Et l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron ne sera pas seul. Les sénateurs convoquent aussi les ministres de l'Intérieur Christophe Castaner et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ainsi que le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron Patrick Strauda. Selon le sénateur LR et membre de la commission d'enquête Marc-Philippe Daubresse, il reste des points à éclaircir.
Monsieur Benalla devait rendre ses passeports diplomatiques, il ne les a pas rendus. Il s'est rendu à l'étranger, visiblement, en utilisant sa position précédente pour créer des contacts, on ne sait pas de quelle nature. Il faut éclaircir tout cela. Et en troisième lieu, il y a eu un dysfonctionnement, puisque le ministère des Affaires étrangères, qui aurait dû exiger la récupération de ses passeports, ne les a pas obtenus et qu'on n'en a pas été informé. Donc nous sommes dans notre rôle, ce n'est pas à nous d'en tirer les conséquences. Le cas échéant, ce sera à la justice d'en tirer les conséquences.
Le sénateur Marc-Philippe Daubresse avec Adrien Beck.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec cette idée de supprimer les allocations aux parents d'élèves. Violent, une expérience déjà menée à Rieux-la-Pape, près de Lyon. On en parle juste après ça dans le journal d'Hélène Zélani.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et le ministre Jean-Michel Blanquer le confirme. Il réfléchit bel et bien à sanctionner les parents d'enfants violents.
Oui, sanction qui pourrait passer par la suppression des allocations familiales si les parents sont complices. La mesure au départ portée par la droite est loin de faire l'unanimité au sein de La République En Marche. Mais sur le terrain, est-ce qu'elle fonctionne? Elle est appliquée depuis mai dernier à Rieux-la-Pape, 30 000 habitants en banlieue lyonnaise. Premier bilan avec Justin Morin.
Re-responsabiliser les parents. Quand on lui demande le but de sa mesure, le maire Les Républicains ne dit pas autre chose que le ministre de l'Éducation nationale. En 6 mois, une dizaine de familles ont été convoquées dans son bureau. Les motifs sont similaires, dégradation de mobilier urbain, échauffourée avec la police municipale dans certains quartiers. Face à lui, des jeunes en récidive, bien connus des services de police. Mais parmi cette dizaine de familles, seulement 2 ont refusé d'être accompagnées par les services sociaux. La mesure est donc tombée. Suspension de l'aide au financement du permis de conduire, des aides pour accéder aux activités sportives et culturelles ou à l'épicerie solidaire. Pas de stigmatisation pour l'élu LR Alexandre Vincendet, simplement de la prévention.
Le but n'est pas de taper de façon aveugle, ça permet d'ouvrir un dialogue. Et je me rends compte avec des jeunes mineurs bien connus de nos services de police, qu'il y a une souffrance de la part des parents, de la part de l'enfant. Donc on accompagne et donc on arrive à trouver des solutions. Par contre, vous avez d'autres familles qui, elles, très clairement, se contrefichent complètement de ce que font leurs enfants. Pour ces personnes-là, il n'y a pas d'angélisme à avoir.
De l'affichage politique, dénonçaient des tracteurs, pour qui cette mesure n'aidera pas à sortir les jeunes de la délinquance.
Justin Morin, et à propos de violences scolaires, un grave incident s'est produit mercredi au lycée Arago de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Une bande d'une quinzaine de jeunes s'est introduite dans l'établissement pour frapper un garçon de 17 ans qui a dû être hospitalisé. Plusieurs enseignants demandent un droit de retrait.
Vous l'entendez? Vous l'entendez, ce vent qui souffle ce matin sur nos ondes? En fait, ça se passe à Marseille. Et ils n'en peuvent plus, les Marseillais, du Mistral.
Oui, un Mistral qui ne se calme pas et ça va encore continuer la semaine prochaine. Alors oui, il y a du soleil, un ciel bleu, une luminosité exceptionnelle, mais aussi des bourrasques à plus de 100 km/h. Et surtout, ça dure, Nathalie Chevance.
Il décoiffe, il fouette. Voilà 15 jours que le Mistral souffle en continu dans la vallée du Rhône. Du jamais vu depuis plus de 50 ans, record battu. Patrick Notterman, prévisionniste à Météo France.
On n'a pas retrouvé ce phénomène depuis 1965. C'est vraiment la durée qui est intéressante. On est sur un phénomène qui est plutôt exceptionnel. Le 369 ne marche plus. En fait, c'est une habitude de langage, mais ce n'est pas un schéma qu'on retrouve dans les statistiques.
Cela va donc durer et en mer, il faut s'accrocher car sur le Vieux-Port, pas question pour les vendeuses de poissons de louper la saison de la sole.
Même les chaloutiers, même les gros bateaux, ils n'arrivent pas à sortir. Elle était la mer déchaînée. Hein.
C'est démonté. Enfin, mon mari est sorti, ça fait un peu hockey corral. On met un peu moins de longueur, on travaille un peu plus prudemment.
Eh oui, c'est très très dur.
Mais les vieux, ils connaissaient bien les temps comme ça à l'époque. Hein.
Pas de quoi effectivement déboussoler un Marseillais. Nana vend son poisson depuis 70 ans. Alors est-ce que le Mistral rend fada?
Si on est fada, on est fada, hein, mais c'est pas le vin. À Marseille, il y a le Mistral, ma chérie. Elle est habituée, hein. Mais le ciel est bleu, toujours bleu. Il fait meilleur qu'à Paris.
Et oui, ciel limpide, couché de soleil époustouflant. Et parfois, sous l'effet du vent, les nuages prennent la forme de soucoupes volantes. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
À 7h11, on retrouve Carole Ferry-Nicos qui est sur le terrain.
Vous êtes où ce matin, Carole ?
Eh bien, je suis dans une halte garderie et j'ai mis la tenue obligatoire, doudoune, gants, bonnet, car ici, les enfants vivent toute la journée dehors, même avec 5 degrés comme ce matin. C'est la halte garderie du Ranelagh à Paris. Ah. Vous avez juste un petit chalet chauffé pour changer les couches.
Ah, mais attendez, 5 degrés, ils ne peuvent pas être tout le temps dehors, les petits.
Eh bien si, c'est tout le principe. Hein. Hier, par exemple, c'était l'anniversaire de la petite Automne, 2 ans. Vous aviez la galette, les bougies, les petites mains lavées dans une bassine d'eau tiède et tout le monde assis dans le jardin de 18 mois à 4 ans. Et est-ce que vous savez quel est le temps préféré des enfants ?
Si j'en crois les miens, c'est flic, flac, floc, quoi. C'est la pluie
et
la boue.
Écoutez, je pense que vous n'êtes pas très loin. Je vais laisser répondre la responsable Alexandra Livadaris.
C'est de jouer dans les flaques, c'est le bonheur intense. Ben voilà. Au bout de 17 ans de garderie, les temps préférés des enfants, c'est quand il pleut. On sort les tractopelles, on sort les bateaux, on fait des chemins. Il y a parfois des enfants, ils peuvent passer mais une heure et demie à mettre le petit bâton et de voir si le petit bâton, je le mets à tel endroit, est-ce qu'il coule, est-ce qu'il flotte. Et si je mets le canard au niveau de l'apprentissage par lui-même dans le jeu libre, il n'y a aucun autre endroit pour moi qui peut offrir ça.
Non mais Carole Ferry, je comprends la vertu pédagogique, mais ils doivent souvent tomber malades les petits.
Pas du tout, figurez-vous, c'est ça qui est extrêmement surprenant.
Ah bon ?
Écoutez, Fanny, il n'y a pas plus attentionnée qu'une maman. Eh bien c'est une des raisons pour lesquelles elle a choisi cette crèche pour sa fille.
L'hiver, il ne tombe pas malade. Il n'y a pas de gastro, il n'y a pas de, de fièvre. Madeleine n'a jamais pris d'antibiotiques depuis qu'elle est née. Donc j'ai des amis qui ont leurs enfants à la crèche et les pédiatres finissent par leur dire d'arrêter à la crèche pendant un mois ou deux pour qu'ils puissent refaire leur système immunitaire. Donc,
et ça, Alexandra, vous l'expliquez comment ? On tombe moins malade dans une crèche en plein air ?
C'est-à-dire qu'en plein air, avec tout ce qui est manipulation du sable, de tous les éléments en extérieur, les enfants en fait font leur système immunitaire d'une manière spontanée et naturelle. Puis d'être en plein air et de respirer un bon air, il y a moins de microbes.
Alors il y a une seule règle, hein, la crèche ferme quand il fait moins de 0 degré. Pas tant à cause du froid, Nikos, mais pour éviter que les enfants glissent avec le gel. Et ce ne sont pas des huluberlus, hein, vous en avez 3 comme ça, des haltes-garderies à Paris. En région, de plus en plus de crèches font faire la sieste dehors, il paraît que le sommeil est bien meilleur.
Bah écoutez, si ça marche, mais la réalité c'est quand on a des enfants confinés dans une petite salle, dans une crèche, on a plus de chances de les retrouver malades quand ils rentrent
exactement
à la maison. Carole Ferry, dans l'une des premières crèches en extérieur de Paris. Faites attention à ne pas attraper froid quand même. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h14, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nicolas Saliagas.
L'édito éco signé Nicolas Barré. Aujourd'hui, Nicolas, on parle de quoi ?
Je vais vous parler de l'après Carlos Ghosn qui s'organise en coulisses.
À 7h20, Europe 1 va plus loin, va s'intéresser à la garde alternée. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Mais ils en pensent quoi, les enfants ? A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
De nouvelles inculpations au Japon pour Carlos Ghosn, dont l'avocat demande la libération sous caution. Par ailleurs, Nissan est de nouveau mis en examen pour sa responsabilité dans la dissimulation de revenus reprochés à son ancien PDG. Les Gilets jaunes préparent de nouveaux rassemblements demain. Certains veulent retourner à Paris. D'autres figures du mouvement appellent à défiler à Bourges, au centre de la France. Les larmes de l'ancien numéro 1 mondial de tennis, Andy Murray, l'Écossais de 31 ans, annonce qu'il va prendre sa retraite cette année à cause de problèmes de hanche. Et puis la météo, beaucoup d'humidité sur la moitié nord, quelques flocons dans le nord-est. Au sud, brume et vent en Méditerranée. Il fera de 1 à 12 degrés cet après-midi.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Et il est 7h16, c'est l'heure, Nikos, de l'édito éco.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, Renault et Nissan ont donc réuni chacune hier un conseil d'administration. En réalité, c'est qu'en coulisses, on prépare l'après Ghosn.
Oui, d'ailleurs, la garde à vue de Carlos Ghosn vient d'être prolongée il y a quelques minutes par le procureur de Tokyo et c'est reparti donc pour une nouvelle période de 22 jours à l'issue de laquelle le même procureur peut trouver une autre raison de prolonger encore 3 semaines et ainsi de suite. Ça peut durer encore longtemps comme ça.
Et du côté des Français, on brandit toujours la présomption d'innocence ?
Alors oui, mais j'ai pu parler avec plusieurs hauts dirigeants qui ne cachent pas quand même leurs troubles par rapport, disons, aux libertés que Carlos Ghosn avait pu prendre avec les règles ces dernières années chez Nissan. Alors, y avait-il les mêmes problèmes chez Renault ? Apparemment non, l'enquête interne n'a rien donné. Les rémunérations des principaux dirigeants du groupe sur 2017-2018 ont été passées au crible, il n'y a eu aucune fraude. Mais même si on ne trouve rien, il est évident que Carlos Ghosn n'est plus en mesure d'assurer la présidence de Renault et donc on s'oriente vers une officialisation de cet état de fait.
Et donc la nomination d'un nouveau patron.
Alors oui, soit avec l'arrivée du patron sortant de Michelin, Jean-Dominique Sénard, qui formerait un tandem avec l'actuel directeur général de Renault, Thierry Bolloré, mais il y a d'autres options. Patrick Pellata, par exemple, qui a été directeur général adjoint de Nissan, qui connaît très bien le Japon, très respecté. Il a aussi été directeur général de Renault. C'est une autre option. Il peut y avoir aussi une option extérieure. On pense bien sûr à Didier Leroy, qui est un Français, qui est l'actuel numéro 2 de Toyota. Bref, une page se tourne, car, et c'est le plus important, et c'est le message du conseil d'administration de Nissan hier, il faut que l'alliance continue parce qu'elle est nécessaire pour ces groupes.
Alors c'est l'autre question qu'on se pose ce matin, est-ce que les Japonais veulent la poursuite de cette alliance ?
Eh bien ça fait vraiment aucun doute. Ils l'ont affirmé hier, l'industrie automobile, vous savez, connaît une révolution. Hier, on apprenait par exemple que Ford et Jaguar Land Rover allaient supprimer des milliers d'emplois en Europe. Et en même temps, les mêmes constructeurs automobiles investissent des sommes folles dans la voiture autonome, connectée, électrique, hybride, tout ce que vous voulez. L'automobile est en train de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et pour le faire, eh bien, Nissan, Renault, Mitsubishi auront besoin de cette alliance. Ils en sont parfaitement conscients.
Merci Nicolas Barré pour l'édito Éco. C'est tous les jours à 7h15 sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Et à 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Comme chaque matin, Europe 1 va plus loin, s'intéresse aujourd'hui à la garde alternée, Nikos.
Une semaine chez papa, une semaine chez maman, selon une étude de l'INSEE publiée hier. En France, ce mode de garde s'installe tranquillement et même s'il ne représente qu'une minorité d'enfants, le phénomène ne cesse d'augmenter. Alors, ces déménagements permanents sont-ils bons pour les enfants ? On en parle avec vous, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour.
Ça concerne combien d'enfants tout d'abord ?
Eh bien, sur les 4 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui avec des parents séparés, 7 sur 10 continuent la formule classique, tout le temps chez maman et un week-end sur deux chez papa. Il ne sont que 1 sur 10 en garde alternée, ça paraît peu, hein, 2,7% de tous les enfants français, ça fait 400 000. Mm-hmm. Mais selon l'INSEE, ce chiffre a doublé en 6 ans et c'est bien le signe que ce modèle commence à rentrer dans les mœurs, en particulier dans les familles aisées où chacun des deux parents a les moyens d'avoir un logement suffisamment grand. À noter aussi, et l'INSEE a du mal à expliquer pourquoi, le phénomène est plus fréquent dans l'Ouest et le Sud-Ouest, en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, plus qu'en Île-de-France ou dans les Dom-Tom.
Et comment ils le vivent, les enfants ?
Alors, je vais vous faire entendre deux témoignages différents. D'abord, Martin. Il a 23 ans aujourd'hui, mais à 13 ans, il a dû alterner une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, et il n'en garde pas un bon souvenir.
Au bout de quelques années, j'ai ressenti le besoin vraiment d'avoir qu'une seule maison, un seul foyer et de plus bouger. Chez mon père, c'était beaucoup moins confortable. Au début, je partageais la même chambre avec ma sœur, c'était beaucoup plus petit. J'avais pas de bureau pour travailler alors que j'étais au collège. Il y avait aussi le problème de la valise. À chaque fois qu'on changeait de maison, il fallait repenser toute la logistique. Est-ce que j'ai rien oublié ? Et c'est assez pesant à la longue.
Alors vous voyez, et maintenant que vous allez écouter Léa, elle a 13 ans. Ça fait 10 ans qu'elle alterne depuis l'âge de 3 ans. Ben pour elle, c'est tout bénef.
Tout va bien pour moi. Moi, je dis que la garde alternée, c'est une valeur sûre. Je sais pas. Mes amies, elles se disputent plus souvent avec leurs parents parce qu'elles, elles les ont 24 heures sur 24. Alors que moi, en général, je me dispute pas avec ma mère parce que ma mère, je l'ai pas eu depuis une semaine. Du coup, j'ai pas envie de me disputer avec elle parce que je veux rattraper le temps perdu. Mais aussi, il y a des avantages. Par exemple, pour les anniversaires ou à Noël, du coup, j'en fais deux des Noëls où j'ai souvent plus de cadeaux. Puis aussi, j'ai des beaux-parents et du coup, bah, je peux me confier à plus de personnes, etc.
C'est drôle.
C'est tout bénef.
Tout voilà. Bénef, c'est ce qu'elle nous dit en tous les cas. Avec nous ce matin, Ève Roger, justement, nous avons le psychiatre et psychanalyste Serge Effes. Bonjour.
Bonjour.
La garde alternée s'est rentrée dans les mœurs. Vous l'expérimentez aussi avec vos patients ?
Ah oui, de plus en plus, hein, de plus en plus de couples qui se séparent et que je reçois envisagent la garde alternée comme un modèle favorable pour eux comme pour les enfants.
On a longtemps dit que c'était déstabilisant pour les enfants. Quel est votre point de vue de spécialiste ?
Non, c'est pas, Si vous voulez, il n'y a pas de solution idéale, on l'entend bien avec Martin et Léa, mais ce qu'on entend surtout, c'est que Martin, il a commencé la garde alternée à 13 ans, et donc au moment de l'adolescence, c'est sûrement plus difficile, parce que les adolescents sont très attachés à leur chambre et très attachés à leur quartier, donc c'est difficile pour eux de bouger, tandis que Léa, qui a commencé à 3-4 ans la garde alternée, eh bien, ça lui paraît tout à fait naturel, et ce qu'elle expérimente, c'est qu'elle a des bonnes relations avec son père comme avec sa mère grâce à ce système de garde.
Mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est plus facile quand on est une fratrie, quand on est plusieurs enfants, de bouger et plutôt que d'être enfant unique et de vivre tantôt chez l'un ou l'autre ?
Certainement, certainement. Et on sait bien dans les séparations que la pire chose, c'est de séparer les fratries parce que les liens entre frères et sœurs, ils se resserrent au moment de la séparation des parents. C'est des liens qui sont très investis. Et donc, les enfants se soutiennent plutôt qu'être dans des positions de rivalité.
Merci pour votre témoignage, Serge Effès. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Merci, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20 sur notre antenne.
Et si vous souhaitez réagir, appelez-nous en 3921. Nous vous écouterons, nous vous lirons également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1,
il est 7h22.
À suivre, l'innovation du jour avec Anissa Mbida. On parle de quoi aujourd'hui, Anissa?
D'un bruit, d'un anti-système anti-bruit pour l'automobile. Imaginez, vous roulez sur des pavés, ça fait du boucan. Vous appuyez sur un bouton et là, pouf, plus rien. Je vous explique tout dans un instant.
Ah, ça existe ?
Ça existe, vous allez voir.
À tout de suite.
Il est 7h24. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida.
Une innovation, justement, Céline Dacosta, qui va intéresser tous ceux qui nous écoutent en voiture le matin, qui sont parfois obligés de monter le son à cause du bruit extérieur. Alors, apparemment, vous avez trouvé une solution pour gommer tous les bruits de voiture et pour écouter Europe 1 tranquillement.
Oui, oui, parce que c'est vrai que ça fait un boucan infernal quand on passe d'une autoroute bien lisse à une portion où il y a du rainurage, hein, ou quand on arrive sur des pavés, par exemple. Eh bien, des ingénieurs ont une idée, c'est d'utiliser la même technologie que sur les casques à réduction de bruit, mais directement dans les portières, dans les haut-parleurs de la voiture. Donc on place un micro au niveau des roues, on enregistre les bruits de la chaussée à l'extérieur et on envoie une onde sonore inverse à l'intérieur de la voiture, dans les haut-parleurs, et ce qui va gommer les vilains bruits de pavés ou de rainurage.
Est-ce que ça va aussi couper les sirènes, les klaxons, comme ça marche d'ailleurs avec les casques audio, je crois?
Et ben non, heureusement d'ailleurs, uniquement les bruits de la chaussée, du moteur éventuellement, sinon ça serait quand même un peu dangereux de ne pas entendre les klaxons et autres bruits. C'est une technique qui avait déjà été expérimentée il y a quelques années, mais qui n'avait jamais vraiment fonctionné. Mais c'est Bose qui s'y attaque, et Bose, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est l'inventeur de la réduction de bruit active, donc on espère que cette fois, ça marchera aussi bien que sur leur casque audio.
Ça va coûter cher, j'imagine ?
Eh bien non, figurez-vous, ça permettrait même de baisser le coût de production de la voiture, parce qu'il y aura besoin de moins d'isolation, il n'y a pas besoin d'avoir une porte qui pèse des tonnes, justement, pour filtrer les bruits extérieurs. Donc on aura des voitures plus silencieuses et moins cher, il faut juste espérer que ça marche.
Anissa Mbida en route vers le futur tous les jours avec sa voiture qui arrive à nous isoler des bruits intempestifs, c'est tous les jours à 7h25.
Et c'était l'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol qui a un bouton pour effacer le mauvais temps.
Ce serait bien. J'aimerais bien effacer le vent, surtout le reportage de notre correspondante à Marseille était vraiment superbe tout à l'heure. On comprend bien ce que
Nathalie Chevance.
Nathalie, pardon, j'avais oublié ton prénom. C'est franchement génial. C'est génial l'importance du vent dans une. Vous savez qu'on dit que le vent rend fou. Et c'est vrai que ce qui se passe en Méditerranée est extraordinaire. Depuis Noël, des vents terribles, Mistral et Tramontane, très forts. Et ça va durer. Ça va durer pratiquement, je crois, jusqu'au. Enfin, je crois, j'en suis même sûr, encore une semaine, franchement. Alors là, Bretagne, Normandie, Picardie, Nord, Champagne.
Pas.
Pardon ?
Il ne démord pas.
Non. Bretagne, Normandie, Picardie Nord, Champagne-Ardenne, Centre, Val-de-Loire et région parisienne. Ce sont des régions où il pleuvra aujourd'hui des petites pluies, toutes petites bruines. Sur les Vosges, l'Alsace, le Dijonais, la Lorraine, il y a un peu de neige. Ça blanchit sur le sol, notamment dans les Vosges. Et il y a pas mal de neige à partir de 500 mètres dans les Vosges, 5 à 10 cm. Donc dans ces régions, nous aurons des chutes neigeuses. Poitou-Charentes, Bourgogne, qu'y a-t-il ? Franche-Comté, Limousin, Auvergne. Là, nous sommes, et même tout le sud-ouest, toutes ces régions sont concernées cette fois par des brouillards et des nuages bas, mais pas de pluie ou très peu. Éclaircie enfin sur le bassin méditerranéen, la basse vallée du Rhône et la région Rhône-Alpes. Je n'ai oublié personne, c'est le principe de cette météo, vous le savez, c'est de n'oublier personne en France, puisque nous sommes une radio nationale. Il fait entre moins 6 et plus 6 degrés à l'heure où nous parlons, et dans la journée, 1 degré à Épinal, à l'abri du vent, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Lyon, 5 à Toulouse, 7 à Paris, 8 degrés à Caen et 10 degrés à Marseille.
Maître Cabrol, je vous remercie. Dans une poignée de secondes, le journal, on vous dit tout ce qui se passe en France, à l'international, c'est juste après ça. À tout de suite. Bon réveil à tous.
À suivre, Nicolas Aliagas.
7h40, Jean-Michel Apathy, 9e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Demain, 7h43, Axel de Tarlé et les aides publiques très inégales versées à nos agriculteurs. 7h45, depuis Marseille, en direct, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Il est mon invité. Guerre des cagnottes, inquiétude de la police, interview à ne pas manquer. Merci de nous faire confiance, merci d'écouter Europe 1. Excellent réveil à vous.
En ce vendredi 11 janvier, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Galman.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on est heureux de les retrouver. Les handballeurs français affrontent ce soir le Brésil à Berlin, début du championnat du monde. Pour la première fois depuis 2003, les Bleus vont se passer de leur totem Nicolas Karabatic, en tout cas en début de compétition, puisque celui qui s'est fait opérer du pied il y a peu pourrait participer en deuxième semaine. En attendant, place aux autres talents, Christophe Lamar.
Un seul joueur vous manque et tout est plus compliqué. Nicolas Karabatic n'est pas à Berlin. La star manque à tout le monde et surtout à son frère cadet. Sans lui, la défense du titre mondial ne sera pas une partie de plaisir, répète Luka Karabatic.
À la base, c'est quelque chose de négatif pour notre équipe. D'un autre côté, on a beaucoup de qualité dans ce groupe. Les gens nous disent qu'on est double tenant du titre. Je pense qu'il faut qu'on se mette un peu dans la peau d'un outsider sur cette compétition.
Le meilleur joueur du monde à son poste est aussi le patron des Bleus, sur et en dehors du terrain. Son absence pèse lourd pour le sélectionneur adjoint Guillaume Gilles, mais c'est aussi une chance.
Ça peut être une fabuleuse opportunité pour d'autres de montrer un peu plus, de se révéler, de porter d'autres responsabilités.
Premier élément de réponse ce soir face au Brésil. Berlin, Christophe Lamar, Europe 1.
Christophe Lamar, envoyé spécial donc à Berlin. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30.
C'est une hausse annoncée qui passe mal en pleine crise des gilets jaunes, celle des tarifs des péages.
Oui, près de 2% de plus au 1er février. C'est prévu chaque année par les contrats qui lient l'État aux concessionnaires autoroutiers. Le gouvernement peut-il convaincre ces derniers de freiner cette hausse. Hausse très mal vécue par ces automobilistes rencontrés près du péage de Saint-Arnoult dans les Yvelines.
Pour le particulier qui paye du péage régulièrement, entre le carburant et puis le péage, bon, bah, ça fait un budget. Je pense qu'il faudrait revenir à une nationalisation et que ça soit freiné, quoi, je veux dire.
Salariés ou patrons, nous regardons nos dépenses, les déplacements, la fréquence. Donc oui, réduction des frais généraux, répercussions dans l'activité professionnelle, les gens passent et des meilleurs. C'est un nouveau souffle sur la braise.
Plus ils ont de charges à payer, moins ils nous donnent d'augmentation. C'est un peu l'effet boule de neige, quoi. Comme nous, bah, plus on paye un péage quand on part en vacances, bah, moins on va dépenser dans autre chose.
Pourquoi est-ce que c'est toujours sur les contribuables que ça tombe? Ça fait maintenant une trentaine d'années que nos autoroutes sont payées, archi-payées. La route, comme d'autres métiers de la route, font partie effectivement du débat national. Je pense que ça devrait être obligatoire.
Un propos recueilli par Aude Vernuccio pour Europe 1. Hier, depuis l'Allemagne à Cologne, en déplacement à la Chambre de commerce et d'industrie, Édouard Philippe a défendu les réformes menées par la France depuis 18 mois. En pleine crise des gilets jaunes, il a souligné que l'immobilité serait le plus grand risque et que les réformes allaient se poursuivre.
Ces indicateurs me laisse à penser que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce assez rapide? Probablement pas. Est-ce que ces mesures suscitent l'enthousiasme? Pas complètement. Mais, mesdames et messieurs, j'ai le souvenir de l'entretien que j'ai eu avec Mme Merkel et avec le président Steinmeier en septembre 2017. Ils m'ont dit, si vous voulez faire des réformes, il faut les faire tôt, il faut les faire vite et il faut les faire loin. Et puis ils m'ont dit ensuite que ça n'était pas quand on les faisait que c'était difficile, que c'était 18 mois après avoir commencé que c'était difficile. Et ils n'avaient pas tort. De mon point de vue, ils n'avaient pas tort.
Édouard Philippe au micro d'Aurélie Herbemont, le Premier ministre qui va échanger ce matin à 9h aux côtés de Muriel Pénicaud avec syndicats et patronat. 4 domaines abordés sur lesquels doivent porter le grand débat, comme la transition écologique mais aussi la réforme de l'État. CGT, Solidaires ne seront pas présents. Les deux syndicats dénoncent un exercice de communication. Et puis notez que les Gilets jaunes se préparent à l'acte 9 demain. 80 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés.
Europe 1, il est 7h33.
L'avocat de Carlos Ghosn va demander la libération sous caution l'attention de son client.
Une demande alors que le constructeur Nissan a de nouveau été mis en examen ce matin, poursuivi pour avoir dissimulé des revenus de son ancien PDG. Hier, un audit interne chez Renault a conclu en l'absence de fraude concernant la rémunération des principaux dirigeants du groupe. Depuis Las Vegas, où il visitait le salon de l'innovation, le patron de Total, Patrick Pouyanné, a réagi au micro d'Emmanuel Duteil à l'affaire Carlos Ghosn. Pour lui, un grand patron n'a pas le droit à l'erreur.
Ça prouve simplement quand on est grand patron, il y a beaucoup d'exigences. Une des exigences essentielles pour moi, c'est la transparence de tout ce que l'on fait. C'est ce que je m'applique à moi-même. Je peux vous dire que mon prélèvement à la source est 43,10%. J'ai aucun problème. Il y a une exigence vis-à-vis des patrons. On est à la tête, je pense, d'entreprises qui sont des puissances économiques. Et donc, on a une exigence vis-à-vis de nous importante, de plus en plus importante, notion de conflit d'intérêts, etc. Je sais aussi l'exigence que sont ces genres de jobs, mais je fais confiance à Carlos Ghosn et il expliquera les choses lorsqu'il aura l'occasion de le faire.
Le PDG de Total qui s'est par ailleurs engagé à ne plus fermer aucune station Total en France. Florence Parly va se rendre aujourd'hui sur la base aérienne de Nancy-Auchet en Meurthe-et-Moselle, d'où avait décollé le Mirage qui s'est écrasé mercredi dans le Jura. La ministre des Armées a annoncé hier que les deux militaires n'avaient pas survécu au crash. Le procès de Mehdi Nemmouche jugé pour la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014. Hier, premier jour d'audience au cours de laquelle a été confirmée la présence de l'association française des victimes du terrorisme parmi les parties civiles. Pour l'avocat de l'association, entre les attentats de Bruxelles et Paris, tout est lié.
On sait maintenant que ces gens se connaissent avant, s'entraînent, s'aident, ont une logistique ensemble et finalement, c'est une équipe avec un projet, avec des commanditaires, avec des gens qui ont en plus un projet de vie, hein, le djihad, etc. Donc nous, victimes, on a été victimes tout le temps. Ça commence ici, à Bruxelles, au musée juif de Belgique, et ça va se poursuivre après. On a besoin de comprendre qui est qui, parce qu'on se dit que de toute façon, c'est des pièces de puzzle, c'est une logique d'être là.
Maître Casubolo Ferro avec Salomé Legrand.
Et ce sera l'événement dimanche sur notre antenne, 20h dans Europe 1 Sport, Didier Deschamps face à nos auditeurs.
Oui, 1h30 d'entretien enregistré cette semaine pendant lequel le sélectionneur des Bleus aborde tous les sujets, même culinaires, on peut dire ça comme ça. Il a effectivement été question de l'entrecôte dorée de Franck Ribéry qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Les réseaux, très peu pour Didier Deschamps.
Je sais pas, c'est comme un besoin de cette nouvelle génération de montrer. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de filmer ou d'envoyer une photo de ce que je mange ou où je suis. Mais des personnes peuvent être choquées par le prix et puis après ça part et ça réagit. Voilà, c'est d'une violence, c'est d'une agressivité. J'ai beaucoup de mal avec, avec. C'est pour ça que j'y suis pas.
Et vous en méfiez.
J'ai même pas envie. Non, mais je sais pas que je m'en vis, ça m'intéresse pas.
Didier Deschamps sur Europe 1 avec Lionel Rosso, émission exceptionnelle, donc dimanche à partir de 20h.
Le journal de 7h30 vous a été présenté par Céline Kallmann.
Europe 1.
Et il est 7h36.
À suivre, la politique, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nicolas, on va parler de l'acte 9 des Gilets jaunes demain. Et on va écouter ensemble un des leaders des Gilets jaunes, Maxime Nicole, qui menace Emmanuel Macron.
Et puis l'économie avec Axel de Tarlé.
Bonjour Nicolas, moi je vais vous parler des fortes inégalités dans le monde agricole que dénonce la Cour des comptes.
Apathy, Tarlé, messieurs, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h39, Nicolas Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Demain, une nouvelle mobilisation, la 9e des Gilets jaunes dans les rues de France. À quoi doit-on s'attendre, Jean-Michel Apathy?
Comme tout le monde, on redoute de la violence, parce qu'il y en a eu tous les samedis, donc évidemment on en a peur. Le gouvernement mobilise 8000 gendarmes et policiers, donc c'est vous dire que la préoccupation demeure encore très importante. Si on s'abstrait deux minutes de la violence, qu'est-ce qu'ils veulent les Gilets jaunes aujourd'hui? Quelle est leur revendication principale? Qu'est-ce qui les dissuaderait de défiler tous les samedis? En fait, on ne sait pas ou on ne sait plus. Et je vous pose la question parce que, de manière assez intelligente, Hugo Clément, qui est journaliste à Combini News, a fait une interview de Maxime Nicole, Flyrider, l'un des dirigeants principaux ou des leaders principaux des Gilets jaunes. Et Hugo Clément demande à Maxime Nicole précisément ceci. Que doit faire Emmanuel Macron si on veut passer à autre chose? Écoutez la réponse de Maxime Nicole.
90% des gens veulent qu'il démissionne. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est les gens. Mais je pense que s'il veut que ça s'arrête, je pense qu'il vaudra mieux pour lui qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale et qu'il quitte ses fonctions.
Vous voyez, c'est plus les taxes sur l'essence, c'est plus le pouvoir d'achat, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du président de la République. Enfin, c'est presque un coup d'État, quoi. Voilà, il faut que... C'est une revendication.
C'est très politique, en tout
oui,
cas.
Ça n'est plus que
on
ça.
Pas dans le social. Ouais.
Et c'est assez extravagant. Comment Maxime Nicole justifie-t-il son propos? 90% des gens le veulent, dit-il là, on vient de l'entendre. 90% des gens le veulent, mais dans son monde à lui. Ça n'est pas vrai. Rien ne lui permet de dire ça. Mais il le dit, parce qu'il est porté par la puissance destructrice des gilets jaunes. La violence, ça aboutit à 90% des gens le veulent. Mais non, pas du tout. Et puis, vous avez entendu la menace dans les mots de Maxime Nicole. Il vaudrait mieux pour lui, il vaudrait mieux pour Emmanuel Macron, qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Mais il vaudrait mieux, s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Enfin, c'est un sous-entendu qu'on n'entend jamais dans une démocratie. Nous en sommes là. Il faut que la masse des gilets jaunes engagés dans ce mouvement pour le pouvoir d'achat comprenne que leurs leaders ont d'autres préoccupations en tête. Et c'est à ce moment de la chronique que je voudrais vous parler, ça n'est pas un hasard, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, de la vie générale et de la vie des sondages, est la personnalité politique, et donc son courant politique avec elle, qui profite le plus du mouvement des gilets jaunes. Marine Le Pen était très discrète ces derniers jours médiatiquement.
Pas beaucoup, oui.
Absolument. Et elle a fait une radio mercredi matin, radio classique, et elle était hier soir l'invitée du journal de France 2. Ses interviews sont sur Internet, regardez-les. D'abord, elle élude très vite, très habilement, elle a du métier, les questions sur la violence. Elle les condamne de manière vague et générale, mais elle précise tout de suite, c'est le gouvernement qui est responsable des désordres, c'est le gouvernement qui est responsable des méfiances. Marine Le Pen, notamment avec Guillaume Durand sur Radio Classique, évite la question sur le boxeur. Elle n'en a pas du tout parlé du boxeur. Est-ce que ça l'a choqué, ce qu'a fait Christophe Détinger avec les gendarmes? Elle n'en a pas parlé, jamais. Elle ne le condamne pas. Il y a une ambiguïté chez elle. Mais en revanche, Marine Le Pen a une obsession, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le constat qu'il faut savoir faire ce matin entre Maxime Nicole, leader des Gilets jaunes, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Il n'y a plus l'épaisseur d'un papier à cigarette.
Jean-Michel Apathy, vous avez été abordé par quelqu'un dans la rue lorsque vous êtes sorti d'LCI cette semaine.
Oui, lundi matin.
Qui vous a interviewé, ou interrogé plutôt, en vous provoquant avec un téléphone portable. Il s'est dit journaliste gilet jaune.
Journaliste gilet jaune. C'est quelqu'un qui était porteur de la haine que des gens éprouvent pour des journalistes. Puisque son propos principal, c'était de dire que je défendais, mais c'est pas moi qui suis en cause, ce sont les journalistes, que je défendais les puissants, les milliardaires, que moi-même j'étais
un millionnaire, enfin, oui.
Tout un tas de fantasmes stupides bien sûr, mais c'est ce type de propos qui fait que des journalistes sont agressés, violemment, frappés parfois. Certains s'échappent pour éviter d'être lynchés. Jean-Wilfried Forquès à Toulouse, il y a un mois, a failli connaître le pire. C'est un journaliste de BFM. C'est ce propos-là, cette pensée-là qui fait que des journalistes sont agressés, que des journalistes sont violemment mis en cause. Il y a des années que des responsables politiques, d'autres journalistes, disent que les milliardaires qui possèdent les médias verrouillent l'information et qu'on n'informe pas les Français, mais qu'on les désinforme. Eh bien, ça aboutit à ces discours d'abrutis qui nous menacent, mais s'ils ne menaçaient que nous, à la limite, on s'en défendrait, mais ils menacent la démocratie, et ça, il faut que nous en prenions tous conscience pour que ça cesse.
Je voulais vous dire aussi notre solidarité ce matin, vous êtes resté stoïque, et vous n'avez pas perdu votre sang-froid.
Ça ne le méritait pas, et il faut le garder tout le temps.
Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40.
Et il est 7h43, l'heure du Zoom Echo, Nicolas Saliagas.
Mon cher Axel de Tarlet,
mon cher Nicolas,
la Cour des comptes dénonce
les aides agricoles.
Les aides agricoles européennes, parce qu'elles seraient source de fortes inégalités, c'est ça.
Voilà, exactement. Alors, on connaît en France notre passion pour l'égalité. Le problème, dit la Cour des comptes, c'est que ces aides agricoles, elles ne sont pas distribuées par exploitation, elles sont distribuées par hectare. Et donc, plus votre ferme est grande, plus vous touchez. Donc, vous voyez, ça favorise les grandes exploitations qui sont souvent céréalières, au détriment des petites fermes qui parfois emploient beaucoup de monde. Vous voyez, ce qui compte, c'est la taille, même si vous produisez peu, c'est ce que dénonce la Cour des comptes.
Et en même temps, on sait que les agriculteurs travaillent beaucoup pour des revenus souvent très faibles et que c'est difficile, leur quotidien est difficile.
Exactement, alors ça, la Cour des comptes le rappelle, un tiers des agriculteurs gagnent moins de 800 euros par mois et les mauvaises années, vous en avez 1/4 qui est dans le rouge. D'où d'ailleurs l'importance de ces aides européennes dont on parle, qui représentent, rendez-vous compte, la moitié, 47% exactement, du revenu des agriculteurs. C'est d'ailleurs très déprimant parce qu'on est là face à des gens qui travaillent énormément, 60 heures par semaine, qui ne prennent pas de vacances. Tout ça pour vivre avec des aides publiques.
Et puis on a beaucoup de réactions d'agriculteurs sur les réseaux sociaux lorsqu'on parle effectivement des pesticides, mais leur quotidien est difficile. Et on s'interroge, on essaie de comprendre pourquoi n'arrivent-ils pas à vivre de leur travail comme tout le monde alors qu'ils sont totalement investis.
Eh bien écoutez, ça c'est la grande question du moment et qui agite également, on en parlait à l'instant, les gilets jaunes. Ben oui, avec la mondialisation, avec la concurrence internationale, les industriels, les agriculteurs se doivent d'être compétitifs à l'échelle internationale. Vous savez, les cours sont mondiaux. Parce que sinon, que va-t-il se passer? Les géants de l'agroalimentaire, les Danone, Nestlé et Carrefour, iront se fournir à l'étranger. Donc nos agriculteurs sont en concurrence avec des agriculteurs du Brésil, de Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas. Ils se doivent donc d'afficher des prix mondiaux, des prix bas et même souvent de vendre à perte. Et donc, pour les aider à vivre, que fait-on? Eh bien, on a inventé des aides agricoles. Et c'est la même problématique dans les usines. Pour rester compétitif face aux concurrents d'Espagne, de Roumanie ou de Chine, il faut travailler à bas coût. Donc, ce n'est pas possible d'augmenter les SMIC. Et donc, pour aider les SMICards à vivre, qu'a-t-on inventé? On a inventé la prime d'activité. Vous voyez, c'est la même logique. Ce sont des aides versées par l'État. Donc, on comprend cette logique. Mais avouez quand même que votre dignité en prend un coup, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre de son travail. On doit vivre des aides publiques.
À réfléchir, à méditer. Le Zoom Éco présenté par Axel de Tarlé, c'est tous les jours à 7h43 sur Europe 1.
Europe 1. Et les 7h46, Nico Saliagas à suivre.
On va partir à Marseille dans un instant. Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sera avec nous en direct. C'est lui qui a lancé la cagnotte sur Internet en soutien aux forces de l'ordre. À tout de suite.
Il est 7h48, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Les dirigeants syndicaux et patronaux reçus par Édouard Philippe et Muriel Pénicaud à Matignon aujourd'hui dans le cadre de l'organisation du Grand Débat National. Les deux membres d'équipage du Mirage 2000 qui s'est écrasé mercredi dans le Jura sont morts. Annonce hier soir de la ministre des Armées, Florence Parly, qui se rend aujourd'hui sur la base aérienne de Nancy-Auchet où était stationné l'appareil. C'est parti pour le mondial de handball. La France affronte ce soir le Brésil à Berlin et nos Bleus sont double champions du monde en titre. Alors on leur souhaite bonne chance.
Allez les Bleus.
Europe 1.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en duplex depuis Marseille.
Bonjour Renaud Muselier.
Bonjour Monsieur Saliagas.
1 367 000 euros ont été collectés jusqu'à cette heure-ci précisément, 3 jours après avoir lancé sur Internet votre cagnotte pour soutenir les forces de l'ordre. Il y a eu 49 720 participants, ça peut encore évoluer. À quoi va servir cette somme, Renaud Muselier?
Elle va être dirigée directement vers les forces de l'ordre qui ont été blessées dans les différentes manifestations, qu'ils soient policiers, gendarmes, pompiers, qu'ils soient sapeurs ou marins-pompiers d'ailleurs, sécurité civile. Cela représente une action auprès de l'Association pour la police nationale qui regroupe toutes ces forces de l'ordre sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est une association reconnue en tant que telle dans le cadre de son action sociale.
J'entends, mais comment vous allez distribuer? Comment vous allez donner 1 000 euros à l'un, 2 000 à l'autre, 500? Sur quels critères?
Nous avons fait une réunion hier. Nous avons été surtout surpris par l'ampleur de cette manifestation populaire, silencieuse, mais forte de 50 000 personnes. Nous étions partis sur des montants beaucoup moins importants et donc on prend quelques précautions pour être tout à fait transparent. Près d'1,5 million d'euros méritent d'être un traitement particulier, avec un compte particulier, avec une organisation particulière.
Mais tout ça, ça n'existe pas spécifique. Pour l'instant.
Non, l'association existe, tout existe, mais...
Pas le dispatching, par exemple, on ne sait pas...
Non, pas du tout. Pas du tout. On est en train de le mettre en place, on a travaillé hier dessus, de façon à ce que ça soit clair, transparent, équitable et en aucun cas critiquable.
Vous avez entendu, Renaud Muselier, certains internautes et des médias, notamment des gens d'Internet, qui mettent en doute le processus de la cagnotte. Ils disent qu'elle aurait été truquée, que certains dons se sont faits presque automatiquement à 4 heures du matin. Il y a eu plusieurs milliers d'euros dans la nuit. Les gens insomniaques, disent-ils. Vous répondez quoi?
Je réponds que les jaloux, vous savez, c'est toujours plus facile pour eux de critiquer. Ils ne critiquaient pas la cagnotte du boxeur qui a frappé le pauvre policier. Pourtant, c'est la même maison. Et gendarme. En fait, le gendarme. Mm-hmm. Mais en fait, c'est donc la même organisation, le même organisme. Et c'est l'afflux immense, d'après les techniciens, qui font en sorte qu'ils ont été traités au fil de l'eau. Il y a eu tellement de demandes qu'il y a eu un embouteillage, en fait.
Donc c'est de la jalousie, vous.
Et que ça a été traité au fil du temps, la critique est permanente. Il n'y a jamais quelque chose de positif dans ce pays. Mais là, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont donné 27 euros de moyenne, 50 000, ce qui fait globalement peut-être plus de manifestants que la totalité des gilets jaunes français. Je pense que c'est un clin d'œil amical aux forces de l'ordre et que c'est pour eux, à la veille de ce 9e mobilisation, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu de vacances, ils n'ont pas eu de week-end, ils n'ont rien eu, si ce n'est des coups sur la tête et des cailloux dans la gueule. Là, ils ont un témoignage de la France qui leur fait peut-être sûrement chaud au cœur en ce début d'année. Et j'invite vos auditeurs à venir contribuer pour les aider. parce que je vois et j'entends le maire de Bourges qui s'inquiète. Je vois et j'entends les commerçants qui sont dans leur cas, dans leur premier week-end de soldes, qui ont passé de mauvaises fêtes et qui ont envie de commencer de travailler, qui en ont assez de la casse, de la destruction et de la voyoucratie dans ce pays.
Vous avez vu la une de Varmatin ce matin ? Concernant l'inquiétude des policiers locaux, justement, à la veille de ce 9e rassemblement, il y a le syndicat de police Alliance qui dénonce notamment une quasi-pénurie des moyens nécessaires et un manque de renfort. Vous la sentez, vous, cette peur sur le terrain ? Vous en pensez quoi, Renaud Muselier ?
Bien sûr, je sens cette peur. Bien sûr que je suis sur le terrain. Bien sûr que je suis en contact avec les gens qui sont en plein milieu. Vous avez les commerçants qui souffrent, ceux qui se déplacent qui sont entravés. Vous avez une forme d'ambiance très particulière et les forces de l'ordre qui sont toujours là. Et j'ai cru comprendre que dans le Var, il manquait de casques pour les policiers qui se retrouvent de nouveau en difficulté. Nous avons dans cette région aussi des manifestations violentes comme dans d'autres endroits en France. Et quand on voit dans quel état ils nous ont mis les péages, qui est une destruction lâche, rapide, mais qui détruit pour détruire. C'est vraisemblablement d'ailleurs ceux qui ne payent jamais d'impôts qui détruisent le plus facilement.
Vous dites stop à l'escalade, on a compris. J'imagine que vous condamnez aussi les violences policières quand il y en a.
Je condamne toute violence. On est dans une belle démocratie où chacun peut s'exprimer. Il y a des modes d'expression qui sont nombreux et variés, notamment à l'élection. Et nous avons la nécessité de se respecter. On peut ne pas être d'accord. On a la nécessité de se respecter. Et tous ceux qui détruisent et qui, et j'ai entendu M. Apathy tout à l'heure, qui systématiquement véhiculent une espèce de lutte des classes et essayent de monter les uns contre les autres, c'est un drame pour notre France. Et en tout cas, le président Macron a réussi à faire en sorte que tout le monde ne soit les uns contre les autres, lui qui voulait une république apaisée. Bon, ben, il faut que chacun prenne ses responsabilités et aujourd'hui que le niveau de température et ce bouillonnement français se calme et qu'on y retrouve une certaine sérénité.
Vous pourriez, dernière question, lancer une cagnotte aussi pour les victimes des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille ?
Oh ben c'est pourquoi pas. C'est en fait peut-être une très bonne idée, mais c'est pas tout à fait le même problème parce que là il y a plutôt une carence en amont et les responsabilités.
Il y a des gens qui n'ont plus rien aussi.
Oui, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, au niveau de la région, nous sommes intervenus puisque nous avons débloqué plus de 100 000 euros pour la Croix-Rouge et l'aide aux familles, que ce soit juridique ou psychologique, de façon à ce qu'elles puissent être traitées et prises en charge.
Merci Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Et un grand merci aussi à notre correspondante Nathalie Chevance, qui est à vos côtés.
Europe 1. Il est 7h54.
Dans le journal de 8h, on va partir à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, qui se prépare à accueillir plusieurs milliers de gilets jaunes. Puis juste avant, il y aura la petite histoire avec Jean-Philippe Ballas. Vous savez quoi ? Elle fera peut-être du bien à nos auditeurs. À tout de suite.
Il est 7h57, c'est l'heure de retrouver Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour, Nikos.
La petite histoire du jour, c'est la rubrique qui s'appelle « Vous savez quoi ?» Et Jean-Philippe Ballas, ce matin, vous nous emmenez en Californie. Vous les entendez ?
Je suis peur.
Des dauphins. Il y a un homme qui surfe avec les dauphins.
Ouais, franchement, les amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des images aussi magiques. Est-ce que vous l'avez repéré au loin, cette vague qui se lève ? Une belle vague, pas trop méchante, mais qui vous permet de surfer longtemps, tranquille, sur l'océan. Bah, tenez, justement, et voici un surfeur qui apparaît au large. Il s'appelle Alden Blair. C'est un jeune pompier de 27 ans. Il ne sait pas encore qu'il a des compagnons dans cette vague. Soudain, à sa droite, il voit jaillir un dauphin, puis deux, puis trois. Trois dauphins qui vont sauter, surfer à quelques mètres de lui. Alden pourrait presque les toucher, il n'en revient pas. D'ailleurs, on le voit lever les bras dans sa combinaison, dressé sur sa planche. On sent bien qu'il kiffe, qu'il savoure cet instant. La séquence dure 15 secondes. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'elle a été filmée, oui, vue du ciel, un peu par hasard, par un drone qui venait de décoller de la plage. Depuis, ces images font le tour du monde. Vous les verrez très certainement aujourd'hui. Et pour ajouter au côté irréel de cette scène, eh bien, le surfeur raconte que c'était l'anniversaire de sa grand-mère disparue et que c'était un peu comme si elle lui faisait signe ce jour-là dans les vagues avec les dauphins. Ben, vous savez quoi ? Comme diraient les Beach Boys, c'est ce qu'on appelle de bonnes vibrations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the
excitations. I'm picking up On les prend, les bonnes vibrations. Merci, mon cher Jean-Philippe Ballas. Et on vous les redistribue ce matin. À suivre, juste après le journal de 8h, il y aura Vincent Herouet. Il y aura l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Elle reçoit la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et vous, vous êtes déjà sur la route ? Vous surfez peut-être ? Vous êtes chez vous tranquillement.
Dans les bouchons.
Vous attendez la météo de Laurent Cabrol, j'en suis certain. Le voici,
elle est là,
il est
elle
là pour
là.
Vous.
Elle
il
est
arrive
là.
Sur sa planche.
Ah tiens, température de l'eau de mer. Température de l'eau de mer de l'Atlantique, 13 degrés, 11 va, degrés sur la Manche et 14 degrés en Méditerranée. Voilà, vous savez tout si vous voulez faire de la planche à voile. Et, mais c'est le froid qui domine aujourd'hui là, vraiment notre météo, puisque en tenant compte du vent, nous avons du moins 12 à Embrun, moins 10 au Puy et Millau, moins 7 à Biarritz et moins 6 degrés à Lyon. Vous voyez que ce sont vraiment des températures très basses en tenant compte bien sûr du vent de nord qui souffle. À Paris, ça va plutôt bien. On est autour de 0 degré, 0,1 degré. En ce qui concerne la couleur du ciel, je vous l'ai dit, la pluie, c'est plutôt près de la Manche, dans le centre, la vallée de la Loire et la région parisienne. La neige, plutôt dans le nord-est, les Vosges, l'Alsace, la Lorraine, le Dijonais. Mais enfin, ce sont des chutes de neige assez faibles, il faut bien le dire. Surtout en pleine, hein, en altitude, c'est beaucoup plus conséquent. Mm-hmm. Et puis ailleurs, eh bien, c'est un ciel de nuageux, on va dire nuageux, notamment dans le sud-ouest, nuageux et surtout froid, avec des températures maximales sous abri de 2 à 9 degrés.
Voilà, maximale sous abri de 2 degrés. Merci Laurent Cabrol, vous êtes mon héros. Bonne journée, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 11 janvier. Très bon réveil à tous, il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Tout à l'heure, on a fait un check tous les deux.
Oui.
On s'est fait vanner par Donna.
Moi, mais moi, j'assume.
Notre patron de l'info en régie.
On est cool, c'est comme ça.
Et vous l'avez refait d'ailleurs.
Alors, on en refait un, allez, on check.
Allez, avec plaisir.
Et très sérieusement, maintenant, trois titres à la une ce matin, David.
C'est l'une des raisons de la discorde. Les péages autoroutiers, les tarifs vont augmenter le mois prochain. Le gouvernement essaie d'obtenir des contreparties de la part des sociétés d'autoroutes. Et pour cause, la colère des gilets jaunes semble inextinguible. L'acte 9 du mouvement se prépare pour demain. Paris et Bourges dans le Cher sont ciblés, mais les protestataires s'organisent aussi ailleurs, notamment en Bretagne. Reportage à suivre. Et enfin, la société française ne ressemble plus à ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Les familles recomposées sont de plus en plus fréquentes. Le nombre d'enfants qui vivent en résidence alternée a doublé.
Europe 1.
C'était prévu, mais ce n'est pas pour autant que cela fait plaisir. Le péage va augmenter au 1er février. 1,8 ou 1,9% de plus dans les caisses des sociétés autoroutières. C'est l'un des sujets sur lesquels on entendra sans doute notre invitée de 8h15, la ministre des Transports Elisabeth Borne, parce que le gouvernement essaye d'obtenir des contreparties de la part des concessionnaires. Aurélien Fleureau.
Le ministère des Transports a clairement fait comprendre aux sociétés d'autoroutes qu'il fallait faire un geste pour le pouvoir d'achat des automobilistes, en priorité pour ceux qui doivent prendre l'autoroute tous les jours pour les trajets domicile-travail. Et ces gestes devraient prendre la forme de réduction de formules d'abonnement locales, comme cela existe à différents endroits, comme sur l'A4 en Moselle par exemple, où l'abonnement à 40 passages mensuels, soit 20 allers-retours, est facturé 119 € par la SANEF au lieu de 176 € s'il s'agissait d'achat à l'unité. Abonnement qui pourrait également être en partie pris en charge par les employeurs. Les concessionnaires formuleront une réponse collégiale plutôt que chacun ne fasse une offre dans son coin. Ces propositions seront faites au ministère des Transports dans les jours qui viennent. Pas sûr pour autant qu'elles suffisent à compenser la hausse des tarifs qui prendra effet le 1er février.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.
Le mouvement des Gilets jaunes, mobilisation pour une 9e fois comme chaque samedi depuis bientôt 2 mois.
Oui, cette fois, c'est la ville de Bourges dans le Cher qui est particulièrement ciblée parce qu'elle serait facile d'accès depuis toute la France. Des manifestations sont aussi à prévoir à Paris, mais ailleurs aussi, les protestataires s'organisent, par exemple en Bretagne. Il s'agit de remobiliser les troupes en proposant de converger sur Saint-Brieuc. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, a assisté à la réunion de préparation.
Une vidéo et des décibels galvanisants pour présenter l'action régionale de ce samedi dont le gymnase prêté par une école, une centaine de gilets jaunes costards mauricains suivent les consignes.
Il y a un camion sono et les revendications à fond, et on fait du bordel.
Avant de partir, pas de couteau à rester dans les poches. Si on vous gaze, ne courez pas.
Par rapport aux éventuels casseurs, n'hésitez pas à les dénoncer aux flics en fait.
Alors qu'un début d'essoufflement menace, les gilets jaunes bretons ont choisi la stratégie de l'union qui fait la force.
On espère faire le même mouvement que le 17, avoir un maximum de monde. Il y a 7 villes qui vont nous rejoindre, ça va être énorme.
Puisqu'on nous dit qu'on n'est plus personne, on essaie de faire des plus gros mouvements pour se montrer.
Mobilisation de toute la Bretagne, c'est une stratégie pour avoir de la masse. Tant qu'il n'y aura pas d'avancée de la part du gouvernement, le mouvement ne s'essoufflera strictement pas.
Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais!
Au menu demain, opération escargot le matin, manif régionale dans Saint-Brieuc l'après-midi avec deux stations prolongées devant la préfecture. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe.
Et je vous rappelle que 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain sur tout le territoire. Et puis dans la perspective de l'organisation du grand débat national, le Premier ministre reçoit ce matin à Matignon les dirigeants patronaux et syndicaux. Édouard Philippe doit en outre nommer une personnalité ou un collège de responsables pour remplacer Chantal Jouanneau, mais le gouvernement peine à trouver le bon casting.
Les choses se compliquent encore pour Carlos Ghosn.
Oui, la justice nippone vient de décider de nouveaux chefs d'inculpation, abus de confiance et revenus minorés. L'avocat de Carlos Ghosn va malgré tout déposer une demande de libération sous caution. Quant à la personne morale Nissan, elle est à nouveau mise en examen. En France, un audit interne a été rendu public par Renault qui établit l'absence de fraude concernant les salaires de son dirigeant en 2017-2018. Carlos Ghosn reste donc pour l'instant PDG de Renault, mais selon les informations d'Emmanuel Duteil, chef du service France d'Europe 1, la question de son remplacement n'est plus un tabou.
On s'approche du moment où l'absence de Carlos Ghosn ne peut pas durer plus longtemps. Voilà ce que lâche une source très proche du dossier. Même si une gouvernance intérimaire a été mise en place, il manque une personne de poids pour incarner l'alliance et peser face à Nissan. Il manque aussi une personne capable de prendre les grandes décisions stratégiques pour l'avenir de Renault. Du coup, le comité des nominations devrait bientôt, selon nos informations, lancer ses recherches pour trouver la perle rare. Le CV est prêt. Il faut un profil international. Il faut avoir géré une grosse entreprise privée. Il faut connaître l'automobile et le marché japonais. Et si cette personne pouvait être française, ce serait vraiment très bien. Parmi les noms qui circulent, Jean-Dominique Sénard, il va quitter d'ici quelques semaines la direction de Michelin. C'est un bon profil, reconnaît-on dans les couloirs de Bercy. On parle aussi de Didier Leroy, numéro 2 de Toyota, ou encore de Patrick Pellata, ancien numéro 2 de Renault, artisan de la relance de Nissan. Lui aussi coche pas mal de cases. En tout cas, il faut aller vite. L'avenir de l'Alliance et donc du premier constructeur mondial en dépend.
Emmanuel Duteil qui recevait hier soir sur Europe 1 Patrick Pouyanné, le patron de Total, nous a confié qu'il ne fermerait plus aucune station-service en France.
Rien de tel qu'un mur, c'est du bon sens. Voilà ce que Donald Trump a lancé en déplacement au Texas à la frontière mexicaine. Les deux camps, le président d'un côté, les démocrates de l'autre, ne bougent pas d'un iota. La paralysie partielle de l'administration américaine, le shutdown, entre donc dans son 21e jour. Le record de 1995 est égalé.
Europe 1.
À suivre dans le journal de David Doucan, la société française qui évolue entre 2010 et 2016, le nombre d'enfants vivant en résidence alternée a doublé. Reportage dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Bonne journée à tous. On vous accompagne jusqu'à 9h sur Europe
1. Il est 8h08. Votre matinale info, Nico Saliagas.
Le journal présenté par David Doucan avec cette info, ce constat, de plus en plus d'enfants vivent en résidence alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman, c'est rentré dans les mœurs.
Absolument, c'est ce qui ressort du rapport de l'INSEE publié hier. 400 000 enfants en France sont dans cette situation, ce chiffre a doublé entre 2010 et 2016 et vous allez le voir, ce n'est pas forcément un drame, la société évolue. Reportage dans une famille de Meudon, signé Rémi Bost-Saron.
Ce soir-là, toute la famille est rassemblée chez le papa Fabien après une réunion parents-prof. Un moment d'échange, témoin de la bonne entente essentielle pour une garde alternée réussie.
C'est le couple parental qui doit continuer à exister même si le couple amoureux n'existe plus.
Mais ce qui est essentiel aussi, c'est ce grand appartement, l'un des deux foyers que Fabien et Aurélie ont les moyens d'offrir à leurs enfants.
On multiplie les frais et il faut arriver à trouver un logement qui puisse comporter deux chambres, une chambre pour moi et puis un salon et pareil chez la maman.
C'est pas économique comme situation, ça c'est sûr.
Tout existe en double autour des deux filles et de l'aveu de la maman.
En termes d'affaires, de logistique, ça retombe un peu sur les enfants.
Manon, 14 ans, confirme.
On oublie toutes les semaines faire toutes nos affaires, c'est comme si on faisait une valise pour les vacances. Plus les cahiers de cours. Quand il y a un truc qu'on oublie, on est obligé de retourner là-bas. Enfin, c'est vraiment compliqué.
Mais pour Salomé, 12 ans, avoir deux chambres, c'est plutôt un avantage.
Par exemple, j'ai eu une enceinte et j'ai voulu la mettre ici pour voir comment ça donnait. Et peut-être que je vais la mettre des fois chez ma mère pour voir comment ça donne. Ça fait deux pièces à pouvoir décorer à son goût.
Et les filles peuvent même avouer devant leur papa qu'elles préfèrent l'appartement de leur maman. Aucune tension, assurent les parents. C'est aussi la preuve d'une relation apaisée.
Reportage signé Rémi Bost-Saron pour Europe 1. Alors bien sûr, on n'idéalise pas cette situation. On sait bien que dans certaines familles, ça ne se passe pas aussi bien que dans l'exemple que nous venons d'entendre.
Et ça devient aussi parfois des pièces de théâtre ou des films. Tiens, d'ailleurs, Danny Boone est sur scène en ce moment.
Oui, cela faisait 10 ans que le comédien n'avait pas joué sur les planches, n'était pas apparu sur les planches. C'était à l'époque dans le Dîner de cons. À partir de ce soir, Danny Boone se produit au Théâtre Antoine à Paris. La pièce s'appelle 8 euros de l'heure. C'est une histoire de fou qui réserve bien des surprises. Thierry Geffrotin.
La journée commence mal pour Laurence. Laurence et Valérie Bonneton. D'abord, elle ne retrouve plus son portable et en plus, elle a très mal au cou. Rien de bien grave, me direz-vous. Eh bien, si, c'est grave. Ou plutôt, c'est bizarre, car Rosa, la femme de ménage, elle aussi a égaré son portable et elle aussi a le cou bloqué. Cette femme, c'est comme si c'était un double, s'inquiète Laurence auprès de son mari Jacques, c'est Danny Boone. Lui préfère en sourire jusqu'au moment où Laurence commence à saigner du nez comme la femme de ménage. Et voilà Jacques et Laurence très inquiets. Tout ce qui arrive à Rosa leur arrive aussi. Résultat, le couple va s'intéresser de près à Rosa, à sa vie, à son autre métier. Drôle de métier d'ailleurs. On va la bichonner, la chouchouter, cette femme par qui tout peut arriver, le pire comme le meilleur. En écrivant cette pièce riche de situations cocasses, Sébastien Thierry a dû beaucoup s'amuser et il a mis dans la bouche de Danny Boone des répliques, des mots qui ne lui sont pas familiers. En un mot, Jacques se lâche et on se dit que Danny Boone et Valérie Bonneton vont beaucoup s'amuser eux aussi sur la scène.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1.
Il faut voir Danny Boone sur scène, c'est toujours une expérience. Immense, immense acteur et artiste. Merci David Doucan, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Le grand remue-ménage de la droite populiste en Europe, Matteo Salvini, promet un printemps européen. Il veut renverser le couple franco-allemand, tout simplement.
Mais oui, Nico, c'est que Matteo Salvini est au pinacle des sondages. C'est la vedette qui impose ses thèmes, son calendrier aux médias. Et à côté, Berlusconi, au sommet de sa forme, faisait figure d'amateur. Il y a 6 mois... quand le patron de la Ligue est entré au gouvernement en appoint au mouvement 5 étoiles, les spécialistes, notamment à Paris, prédisaient le chavirage imminent. Eh bien, ce sont eux qui ont bu la tasse, car Salvini, lui, il marche sur l'eau. Ce qui fait tenir l'attelage, improbable avec Luigi Di Maio, c'est le rejet de la Commission européenne, la détestation de la caste bruxelloise, des petits choux de Bruxelles, la critique au vitriol d'une Europe libérale qui aurait trahi sa vocation, ses valeurs judéo-chrétiennes, son identité.
Et ça marche tellement bien à l'intérieur que Matteo Salvini en profite, il est désormais en croisade à l'extérieur.
Oui, avant-hier à Varsovie, il a proposé au gouvernement polonais d'établir un pacte en 10 points, lesquels, ben on verra bien, mais avec les Hollandais, les Espagnols, les Danois, ils pourront s'y mettre, ils pourront y adhérer. Le but, c'est de former un groupe puissant au Parlement européen, à la droite du Parti populaire, et en pesant sur l'échiquier politique, de changer le visage de l'Europe. Moins de finances, plus de travail, moins de bureaucratie, plus de famille, moins d'immigration, plus de sécurité. Alors hier, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a applaudi l'audacieux. Matteo Salvini n'a peur de rien, surtout pas du mépris des éditorialistes, surtout français. Alors il dit qu'il est temps de remplacer le moteur franco-allemand par un tandem italo-polonais et il promet un nouveau printemps européen. Alors c'est vrai que le couple franco-allemand végète en hiver, mais la semaine prochaine, il doit sortir de l'hibernation. Emmanuel Macron et Angela Merkel vont signer un nouveau traité, ce sera à Aix-la-Chapelle, et on parle d'un saut dans l'intégration. Pas encore la fusion des deux nations, mais la relance du rêve fédéral.
Merci beaucoup. Vincent Hervouet sur Europe 1, c'est tous les jours, c'est son point de vue international.
Europe 1, il est 8h14.
Restez avec nous dans 2 minutes, l'interview avec Audrey Crespo-Mara, l'interview politique. Vous recevez qui ce matin?
Eh bien écoutez Nico, s'il y a 4 mois, cette ministre venait à Europe 1 annoncer l'augmentation des prix des carburants. Et 4 mois plus tard, elle rencontre des gilets jaunes et reporte l'examen de sa loi. Avec elle, nous parlerons également de la hausse des prix des péages prévus dans 3 semaines. Quelle hausse? Elisabeth Borne, ministre des Transports, sera mon invitée.
A tout de suite Audrey.
Il est 8h16, Nico Saliagas.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, est votre invitée ce matin, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
On s'attend à de nouvelles violences demain à Paris. Alors après ce qui est arrivé samedi dernier à Benjamin Griveaux, j'imagine que vous ne prendrez pas le risque d'aller travailler à votre bureau au ministère des Transports ?
Écoutez, je pense que j'irai travailler samedi. On va se préoccuper de la sécurité des ministères. On va aussi s'occuper surtout de la sécurité des Français. Je pense que les Français ne veulent pas revoir les scènes de violence qu'on a pu voir ces dernières semaines, qui sont révoltantes. Et ça ne doit pas être la loi du plus violent dans ce pays. Donc les forces de l'ordre sont mobilisées, une mobilisation exceptionnelle de 80 000 forces de l'ordre ce week-end.
Et est-ce que votre sécurité personnelle, la sécurité de votre ministère, sont renforcées ces deux sécurités?
Enfin, la sécurité de mon ministère sera assurée, mais le plus important, c'est que la sécurité des Français, des commerçants, de tous les citoyens qui veulent se déplacer, soit assurée.
En tout cas, la vôtre est renforcée. Elisabeth Borne, la cagnotte Litchi pour le boxeur de gendarmes a atteint les 120 000 euros avant d'être rapidement fermée, tandis que celle ouverte en soutien aux forces de l'ordre dépasse ce matin 1 300 000 euros. Bon, il y a une petite polémique autour de cette somme, mais tout de même 1 300 000, ça devrait vous rassurer ?
Je pense que ça montre, et moi je n'avais pas de doute, hein, que les Français sont attachés à leurs forces de l'ordre, veulent témoigner de leur soutien. Les forces de l'ordre, elles sont aux côtés des Français pour les protéger dans toutes les circonstances, les attentats, les violences. Et ça montre effectivement que les Français le savent.
Évidemment, la plupart des Gilets jaunes ne sont pas impliqués dans ces violences. Vous avez rencontré certains d'entre eux mardi dernier. C'était pour préparer le grand débat national ?
J'ai surtout rencontré des associations, mais effectivement, je pense que c'est important qu'on revienne au sujet de départ. Au départ de ce mouvement, et c'est de ça dont il faut qu'on parle, il y a des Français qui expriment des difficultés pour se déplacer, ça me concerne, des difficultés aussi ou le sentiment d'être oublié dans certains territoires, et c'est vraiment de ça dont on doit parler, et c'est le sens du grand débat qui va s'ouvrir.
Il y a 4 mois, vous annonciez à Europe 1 la hausse des prix des carburants, et c'est de là dont tout est parti.
Donc, écoutez, je pense qu'on a pris les décisions qui étaient nécessaires pour effectivement apaiser le débat avec cette annulation de la hausse de la fiscalité, avec 10 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat. Et maintenant, on a des bonnes conditions pour que le débat s'ouvre.
Elisabeth Borne, fin novembre, donc vous avez présenté une loi de mobilité pour réformer les modes de transport en France. Est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes va vous obliger à revoir votre loi de fond en comble ?
Ce mouvement, il confirme ce que je porte depuis des mois, qu'il y a des territoires qui se sentent oubliés, qu'il y a des gens qui se sentent prisonniers du tout voiture et qu'il faut trouver des solutions. Mais moi, j'attends de ce débat aussi qu'on puisse avoir des échanges avec les Français sur des questions précises. Par exemple, on a mis en place une prime à la conversion pour aider les Français à acheter un véhicule, passer d'un véhicule ancien à un véhicule plus récent, moins polluant, qui consomme moins. 300 000 personnes en ont bénéficié. Certains Français nous disent, on ne comprend pas comment ça marche, c'est trop compliqué. Bah, parlons-en pour améliorer le dispositif. Vous savez aussi que quand on habite dans un territoire où il y a des transports en commun, votre employeur prend en charge 50% de votre abonnement. Et quand vous n'avez pas de transport en commun, vous êtes doublement pénalisé parce que l'employeur ne vous accompagne pas. Donc ça, avec Muriel Pénicaud, on va en discuter.
Donc,
avec
ce que vous nous dites,
sociaux.
C'est que vous tenez compte des discussions qu'il y aura lors du grand débat.
La loi qui sera débattue en mars, donc qui a été décalée de quelques semaines, pour prendre en compte les résultats du débat, puisse intégrer les propositions qui émergeront dans le débat.
Elle sera débattue en mars, mais le grand débat national se termine mi-mars. Donc, est-ce qu'il ne faut pas encore décaler votre loi ?
On enchaînera, on pourra prendre en compte les propositions qui émergeront du débat.
Donc, il faut qu'elle soit examinée encore plus tard.
Elle vient au Sénat fin mars, et donc on pourra intégrer les propositions issues du débat.
Est-ce que, puisqu'elle a choisi de ne pas coordonner le grand débat national, vous suggérez à Chantal Jouanneau de démissionner, comme l'a fait Benjamin Griveaux hier ?
Écoutez, je pense que c'est à elle de prendre les bonnes décisions, et je pense que vraiment, c'est un peu anecdotique. Revenons au sujet de
piloter
fond.
Le grand débat national, c'est anecdotique ?
Non.
Sa démission ?
La décision de Chantal Jouanneau, maintenant, elle n'a pas souhaité être dans le débat. Maintenant, parlons du grand débat. Le gouvernement est très mobilisé pour que ça se passe bien, pour qu'on entende les Français et leurs préoccupations.
Elisabeth Borne, c'est une information européenne. En 2018, les radars ont connu 4 fois plus d'actes de vandalisme qu'en 2017. 4 500 dégradations du jamais vu en France. Vous confirmez ces chiffres ?
Je ne confirme pas ces chiffres. Il y a eu beaucoup de dégradations. Il faut se dire à quoi ça sert un radar. Ça sert à s'assurer que tout le monde respecte le code de la route. Et quand on voit ces dégradations, moi je pense notamment aux victimes ou aux familles de victimes qui ont été victimes justement d'un chauffard qui roulait trop vite. C'est ça qui est en cause quand on dégrade des radars.
Les chiffres, c'est 60% de plus ?
60%, effectivement, le ministre de l'Intérieur l'a dit, 60% de radars qui ont fait l'objet de dégradations. Mais voilà, ce qui est en cause, c'est la capacité à s'assurer que sur nos routes, les gens respectent le code de la route. Pensons aux gens qui ont été victimes de ces violences.
Ces dégradations, routières. Elles se sont multipliées dès la confirmation du passage aux 80 km/h. C'est toujours pas digéré, c'est là que tout a commencé.
Je pense qu'effectivement, la mesure, elle a fait réagir. On a dit qu'on ferait une évaluation au début de l'an prochain. on a
vous reviendriez dessus.
On a pu constater qu'il y avait sans doute 200 morts de moins jusqu'au mois de novembre. Ensuite, avec les dégradations que vous avez mentionnées, c'est difficile de mesurer l'efficacité de la mesure, mais elle sera évaluée, comme on l'a dit, début de l'an prochain.
Elisabeth Borne, il y a une semaine, vous avez reçu les sociétés d'autoroutes pour leur demander de faire un geste commercial, alors que les prix des péages devraient augmenter de 1,8 à 1,9% dans 3 semaines. Vous leur demandez quoi précisément? Un gel des prix? Une plus faible hausse? Et de combien?
Alors, je leur demande un effort et je leur demande de prendre en compte les préoccupations des Français sur le pouvoir d'achat. On a notamment un certain nombre de Français qui prennent les autoroutes tous les jours pour se rendre au travail.
Mais quel effort leur demandez-vous précisément ?
Écoutez, moi je leur ai demandé leurs propositions, je les vois lundi et on pourra examiner les propositions ensemble.
Donc vous les voyez lundi et si les sociétés d'autoroutes ne font pas ce geste ?
Elles ont annoncé qu'elles avaient entendu que le gouvernement leur demande des propositions, que je leur demande des propositions, donc je n'ai pas de doute qu'elles sont conscientes des attentes des Français.
Vous envisageriez de renationaliser les autoroutes ?
Écoutez, c'est 50 milliards, donc je pense que, vous voyez...
Il faut trouver 50 milliards ?
C'est 50 milliards d'euros si on voulait renationaliser les sociétés d'autoroutes. Donc, vous imaginez qu'on n'a pas 50 milliards, mais les sociétés d'autoroutes doivent entendre et effectivement faire un effort pour le pouvoir d'achat des Français.
Il faudrait une grosse cagnotte.
Voilà.
Elisabeth Borne, hier, un employé de la SNCF a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. La justice le soupçonne d'avoir négligé l'entretien des voies ferrées, ce qui pourrait être à l'origine du déraillement de Brétigny, qui a fait 7 morts et des dizaines de blessés en 2013. À travers lui, c'est la responsabilité de la SNCF qui est mise en cause.
Moi, je ne vais pas commenter les responsabilités dans le cadre d'une enquête qui est en cause, mais cet événement de Brétigny, cet accident terrible, nous a aussi alertés sur les choix qui avaient été faits pendant des années de créer des nouvelles lignes à grande vitesse et de ne pas s'occuper suffisamment de l'entretien du réseau. C'est toute la réorientation de la politique, la réforme ferroviaire que j'ai menée l'an dernier. On va augmenter de 50% les crédits consacrés à l'entretien du réseau ferroviaire et c'était indispensable.
Mais la justice a commandé plusieurs rapports à des experts qui ont tous conclu à un défaut d'entretien de la voie ferrée. Pourtant, la SNCF continue de prétendre que l'accident était imprévisible. Est-ce que ce n'est pas indécent vis-à-vis des victimes ?
Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat.
Non, mais en tant que ministre, j'imagine que vous consultez tous ces rapports et que vous vous êtes fait une opinion là-dessus.
Enfin, la SNCF voilà, a sa vision et défend sa vision sur les circonstances de l'accident. Ce qui est
vous
clair,
n'avez pas de conviction
ce
là-dessus.
Ce qui est clair, c'est que ça montre qu'il y avait un sous-entretien du réseau et cet accident terrible l'a démontré. Au-delà, je pense que les Français, ils le vivent tous les jours, vous savez, le sous-entretien du réseau. Quand on met plus de temps à faire un trajet aujourd'hui que ce qu'on faisait il y a 20 ans parce qu'on a mis en place des ralentissements, c'est insupportable pour les Français qui prennent le train tous les jours. Et c'est aussi ça, la réforme ferroviaire que j'ai menée au printemps.
Merci Elisabeth Borne.
Merci, c'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
Il est 8h25, Nikos Aliagas.
Dans un instant, il y aura la météo de Laurent Cabrol, mais aussi la revue de presse de David Abiker. À la veille de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, la défiance à la une des journaux ce matin. A tout de suite sur Europe 1.
Dans un instant, la revue de presse de David Abiker, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Le froid en vedette ce matin, mon cher Laurent Cabrol.
Bah oui, Nikos, oui. C'est... Franchement, là, on peut dire que le froid supplante toutes les autres partie de la météo d'aujourd'hui. Je ne veux pas trop insister sur la pluie, où c'est des toutes petites pluies qui se situent près de la Manche, qui se situent dans la vallée de la Loire, sur la région parisienne, des petites pluies passagères. Je ne parlerai pas des chutes de neige qui, en pleine, n'ont pas donné grand-chose et ne donnent pas grand-chose. On voit sur les images radar, on voit vraiment des petits points qui correspondent à ces averses neigeuses ou à ces giboulées, mais enfin, ça ne va pas bien loin. Et puis, dans le sud-ouest, comme sur le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Auvergne, ce sont surtout les nuages qui dominent, et près de la Méditerranée, ce sont les éclaircies. Donc, je n'insiste pas trop sur cette couleur du ciel. En revanche, le froid, oui, là vraiment, nous avons en race campagne, parce que tout à l'heure, je vous donnais les températures de 5 heures, mais les températures les plus basses, c'est autour de 7h30, 8h, au moment du lever du jour. Nous avons du moins 10 à l'abri, hein, sous abri, moins 10 degrés dans la Nièvre, dans les Landes, en race campagne, des moins 9, des moins 8, il y en a beaucoup. Et puis, pour les températures les plus positives, c'est Brest et Caen, entre 6 et 8 degrés. Bref, vraiment le froid et domine aujourd'hui. Cet après-midi, je ne vais pas insister trop sur les températures. Sous-abri 1, Épinal, 3 degrés à Dijon et Strasbourg. À Lyon, Nancy, Clermont-Ferrand et Nevers, 4 degrés. 5 à Toulouse, 6 à Sedan, 7 à Paris, 8 degrés à Lille, 9 à Rennes et 10 degrés à Marseille et 12 à Nice. Voilà pour les températures maximales. Demain, nous serons samedi, vendredi. vendredi, samedi, dimanche, d'une manière générale, c'est 3 jours, donc en comptant aujourd'hui, sont des temps humides. Ensuite, nous allons vers des temps un peu plus froids, mais vraiment, le grand froid, s'il doit arriver, ce sera après le... Allez, 16, 17, 18. Voilà mon échéance.
Merci Laurent Cabrol, on vous retrouve juste avant 9h. Vous parlez de froid, j'ai toujours une pensée particulière pour ceux qui n'ont pas de quoi se chauffer, tout simplement, et ceux qui n'ont pas de maison et qui vivent dans la rue. Voilà, il faut le dire. Si vous pouvez les aider, faites-le. Une petite couverture, un endroit, accueillir quelqu'un. Ne pas hésiter à le faire, voilà, sans se poser trop de questions.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
La revue de presse et la revue de presse, David Abiker et Nicolas Canteloup.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
L'avenir judiciaire, Carlos Ghosn, de plus en plus sombre au Japon. De nouvelles inculpations pour le PDG de Renault ce matin. Malgré tout, ses avocats viennent de déposer une demande de libération sous caution. Acte 9, les Gilets jaunes préparent de nouveaux rassemblements demain. Si certains veulent retourner à Paris, d'autres figures du mouvement appellent à défiler à Bourges, au centre de la France. Et certains commerçants s'inquiètent déjà.
Il ne faut pas psychoter non plus. On a suivi une ligne directrice comme quoi on allait tout s'ouvrir. C'est quand même le samedi des soldes, il faut savoir que c'est le troisième plus gros samedi de l'année. Et pour certaines boutiques, c'est juste pas possible de fermer, quoi.
Stéphane Jacquet, président des commerçants de Bourges, avec Jean-Jacques Herry. Il y a tout juste un mois, Strasbourg était endeuillée par l'attentat au marché de Noël. 5 morts. Aujourd'hui, certains habitants restent traumatisés. 1300 consultations de suivi psychologique ont été organisées, et ce sous l'autorité du psychiatre Dominique Mastelli. On l'écoute.
Une personne qui présente aucun signe sur le moment, qui va très bien, peut présenter des semaines, des mois, voire des années après. Des signes très très envahissants. Un détail va faire qu'il y a une mise en lien avec l'événement, et celui que nous pensions être sur une bonne voie va se retrouver en situation difficile, devoir être soigné.
Des propos recueillis par Arthur Elmbaché. La ministre des Armées Florence Parly attendue sur la base aérienne de Nancy-Auchet. C'est de là qu'avait décollé le Mirage 2000 qui s'est écrasé mercredi dans le Jura. Et les deux membres d'équipage n'avaient pas survécu. Et puis le mondial de handball à Berlin. La France entre en lice ce soir face au Brésil, sans Nicolas Karabatic, mais avec l'espoir de décrocher un 7e titre mondial. Victoire qui aurait une saveur toute particulière en Allemagne, terre de handball par excellence. Écoutez le directeur technique Philippe Bana.
Tu vas dans la Mecque du handball, tu vas à l'endroit où tout est né, tu vas à l'endroit où il y a 20 ans, nous on regardait ça, petit handballeur à 150 000 licenciés français, alors que là-bas il y avait 1 million de licenciés. Ouais, il y a quelque chose comme aller visiter Dieu le Père, quoi, et dire et ça va, on va vous expliquer que nous on est Jésus et qu'on peut faire un truc.
Le directeur technique d'handballeur français, interviewé par Christophe Lamar.
Nikos Aliagas, tout de suite, la revue de presse avec David Abiker.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous.
Vous avez tout lu.
Presque. Ce matin dans la presse, et particulièrement dans la presse régionale, on redoute les manifestations des Gilets jaunes de demain et on se demande où ça va chauffer. Les policiers du Var sont inquiets avant l'acte 9, titre Var Matin. Au Mans, dans la Sarthe, on redoute une opération coup de poing dans le centre-ville. Crainte d'une manif violente, titre Le Maine Libre. Mais s'il y a une ville qui a peur de prendre cher, c'est Bourges. Bourges ou Paris ? Pour l'acte 9, s'interroge le point.fr. Bourges ou Paris, les Gilets jaunes hésitent. Dès lundi, la République du Centre relayait leur appel lancé sur Facebook. Appel à manifester dans une ville centrale et accessible facilement. Bourges, qui prend des précautions ce matin, nous explique le Berry Républicain. Bourges où on a démonté des horodateurs, où on fermera demain l'hôtel de ville. Il y avait un mariage organisé, il s'est expatrié dans un village à côté. Bourges où les représentants des commerçants berruyers, parce que les habitants de Bourges s'appellent les berruyers.
Vous voyez,
je fais la confusion. Appel ce matin à l'ouverture, on vient de l'entendre, dans le rappel des titres, car ce sera l'un des samedis les plus importants de l'année pour les soldes. Bourges, connu pour les riches heures du duc de Berry. Bourges, ville de Jacques Cœur, grand argentier du royaume de France. Bourges qui est aussi le diminutif de bourgeois, comme si choisir Bourges était aussi pour le mouvement une façon de dire la défiance des petits vis-à-vis des bourgeois. Ils sont forts, ces gilets jaunes.
Vous évoquez la défiance, c'est à la une du Figaro ce matin, David Abiker.
Institution élite, la grande défiance des Français. Mesurée chaque année par une enquête fleuve du Cevipof, la défiance augmente, nous explique le quotidien. Lassitude, morosité, méfiance, tous les indicateurs sont à la hausse. 37% des personnes interrogées éprouvent de la méfiance vis-à-vis des politiques. Pire, 32% du dégoût. Parmi les politiques, c'est le maire qui s'en sort le mieux. Mais justement, les maires sont eux aussi dans une posture de défiance vis-à-vis du pouvoir central qui veut leur faire animer le fameux grand débat dont certains ne veulent pas être les porte-flingues. C'est ce que nous dit en substance la presse de la Manche ce matin. Mais le plus intéressant dans ce que le Figaro appelle un tsunami de défiance, c'est la répartition de cette défiance selon le revenu. Les Français qui gagnent plus de 6 000 euros par mois sont 27% à avoir encore confiance dans la politique. Ceux qui gagnent moins de 1 200 euros mensuels sont 13%. En clair, plus t'es faux, plus tu te méfies de la politique. Ce qui fait dire à Vincent Trémollet de Villers dans son édito que la passion du soupçon s'est emparée de la population. Et ce soupçon vise les journalistes, les banquiers, les syndicats, bref, les professions considérées comme embourgeoisées. Et dans le Midi Libre, Yann Marek consacre deux France, celle des cagnottes pour casseurs et les autres, celle des ronds-points et les autres, celle des fake news et les autres de France donc.
Et dans le Courrier Picard, on parle également d'argent.
Jean-Marc Chevaucher revient sur la polémique autour du salaire de Chantal Jouanneau qui a révélé une nouvelle fois, dit-il, le ravin social, c'est plus une fracture, c'est un ravin, qui divise cette France. 14 000 euros, 9 000 patates, ça fait combien de pommes de terre pour nourrir 200 SDF ? On approfondira ce sujet des privilégiés qui nous gouvernent en lisant Libération qui titre « Aux fonctionnaires, les salaires de la discorde ». Et ce paradoxe, Libé, Libération, défend une haute fonction publique bien payée, certes, mais moins que dans le privé, et qui bosse, noblesse d'État, certes, mais travailleuse et dévouée. Si coupure il y a, c'est aux élus qu'elle incombe, pas à ceux qui les servent. Alors évidemment, dans tout cela, l'affaire Carlos Ghosn n'arrange rien. Challenge, le magazine économique, souligne combien certains montages fiscaux, souvent légaux, mais insupportables moralement, dans le contexte actuel, autorisent certains grands dirigeants d'entreprise à recourir au système de rémunération différée à l'étranger. C'est très complexe, mais ça leur permet de se constituer, tiens, une cagnotte, dont ils profiteront plus tard dans un pays à fiscalité douce. Tout ça donne des arguments aux gilets jaunes et aux démagos et alimente ce qu'on appelle le racisme d'assiette, la jalousie de l'autre, le fameux soupçon, la fameuse défiance. Le racisme d'assiette, c'est une expression de Jean-Paul Delevoye, celui que les Échos surnommaient en décembre l'évangéliste du débat sur les retraites. Jean-Paul Delevoye, ancien maire, ancien ministre de Chirac, que certains verraient bien conduire maintenant le grand débat national, car il en aurait l'étoffe, la bonhomie et la personnalité. Et mon cher Nikos, puisqu'on parle d'argent, on lira dans les Échos du week-end un reportage étonnant sur la manufacture allemande Buben et Zorwerk. C'est ultra secret, spécialisé dans la fabrication de coffres-forts et meubles sécurisés pour les riches, avec du cuir, des métaux précieux, des mécanismes ultra complexes. Des coffres que s'arrachent des millionnaires, les people, les familles royales d'Europe, et dont le prix ferait bondir n'importe quel smicard. Parmi ces coffres de collection, il y a le 007, dont le mécanisme à vérin est inspiré par le film Goldfinger. À l'ouverture, un système reconnaît les empreintes digitales du riche propriétaire. Le plateau de l'horloge installé sur le couvercle se soulève automatiquement et laisse apparaître des tiroirs pivotants. Et c'est dans ces tiroirs que les riches cachent ces fortunes dorées qui font rêver les jaloux ou qui indignent les gilets jaunes.
Vous devriez faire du cinéma.
De la radio, c'est déjà ça.
Mais vous avez la voix de l'acteur sur scène ou devant une caméra. Vous nous racontez des histoires sans nous raconter des bobards. C'est la revue de presse de David Abiker.
Europe 1.
Il est 8h37.
Ne bougez pas. Lui, c'est un cinéma, lui tout seul. Il a un cortège de personnages dans sa tête. Des voix aussi talentueuses qu'irrespectueuses. Nicolas Canteloup arrive dans quelques instants.
Il est 8h39.
C'est l'heure que vous attendez tous. Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. C'est parti.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et avec vous, Nikos, on revient sur le principal titre de l'actualité.
Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous,
bonjour
à toutes. Ce matin, l'actu Surround, c'est bien sûr l'acte 9 tant redouté. Alors notez que les Gilets jaunes n'ont pas prévu de rassembler pour une fois à Paris, mais il semblerait que ce soit donc à Bourges, la ville de Bourges. Ils partent donc, vous l'avez compris, en tournée, les Gilets jaunes. Alors si vous êtes intéressé pour les voir, quelques dates, ils démoliront Bourges donc le 12, nous l'avons dit, ils détruiront Rennes le 17 janvier, ils feront cramer Saint-Nazaire le 22 et puis Carcassonne brûlera le 27 janvier. Voilà, toutes les dates de tournée en tout cas sur le site européen, je tendrai tête de cortège, sont à retrouver
sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. À vous, ma chère Julie.
Merci, Nikos. Bon. Le grand débat national s'organise donc. Des cahiers de doléances ont été mis à la disposition des Français dans les mairies. On va faire un petit tour des mairies de France, justement, pour voir comment ça se passe. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Comment ça se passe à Marseille?
Bonjour, madame Julie, monsieur Diagas, monsieur Abiquer, bonne année, en silence, au volant de votre Lexus. Monsieur Cabrol, je vous souhaite une belle météo. Madame Dacosta, tout le monde est là. Oh, ça me fait plaisir. Écoutez, bonjour. Je dois dire que les premières doléances sont tombées dans les cahiers.
D'accord.
Alors, je sais que vous êtes curieuse, madame Julie, donc
allez-y,
je vous l'ai dit.
Oui, au hasard.
Alors, voilà. Page 1, nous avons toute une page sur le thème PSG, va niquer ta mère. Page 2, aux chiottes, pareil. Page 3, PSG, rentre chez toi.
Oh là là, mais il y a plus constructif quand même sur Marseille,
alors,
non ?
Attendez, parce qu'il y en a des pages. Page 4. Alors là, il y a une revendication qui est très claire. Je lis, dégagez l'entraîneur de l'OM ou on crame vos voitures, bande de bâtards.
Ouais.
Page 5, virez le gardien de l'OM. Page 6, virez les attaquants de l'OM. Attendez, page 7, virez le président de l'OM.
D'accord,
vous voyez
d'accord,
que c'est très varié.
D'accord, bah, il s'annonce bien le débat à Marseille, dites-moi.
Oh, écoutez, pas d'ironie de la part d'une parisienne, madame Julie, s'il vous plaît. Non, on se réunit, c'est très organisé. Il y a des propositions sur la table qui sont mises, d'autres mettent des valises sous la table. Voilà, ça fait 70 ans que ça dure, c'est très complémentaire. Et que je sache, la ville se développe qu'à un cas. Donc laissez-nous faire, ne vous inquiétez pas.
Bon, d'accord. Merci Jean-Claude Gaudin.
Bon.
Merci, à bientôt. On va partir pour Lille maintenant, où la maire est en direct avec nous. Bonjour Martine Aubry.
Bonne année. Oui, non, pardonnez-moi, mais... vous savez, Lille en hiver, c'est quand même moins de 30 degrés à midi. Hein, donc, ça grippe un petit peu.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pour améliorer leur ville, les Lillois? Dites-nous.
Ah, bah, rien du tout. Hein, rien
ah
du
bon
tout.
Non, pourquoi
non,
rien
non. Ah bah, ils ne veulent pas améliorer la ville, ils en veulent une autre. Hein. Donc je lis. Hein. Ici, on a froid, on veut déménager à Nice. Hein, une autre page, autre doléance. On veut du boulot, hein. On veut déménager à Paris. Hein. On a également, on veut des palmiers, on veut déménager à Cannes. Voilà, la doléance, c'est ça, c'est juste se barrer. Voilà.
Bon, d'accord. Bah, merci Martine Aubry, bon courage, hein, ça va être dur. Hein.
Oui.
Allez, on va aller maintenant à Levallois-Perret, au hasard, tout ça. Hein. Patrick Balkany, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans les cahiers de doléances de Levallois?
Alors, dans le cahier, page 1, nous avons tout un laïus sur comment légaliser la fraude. Page 2, on nous demande d'autoriser la corruption.
Bah oui.
Page 3, un mandat du maire à vie. Voilà la doléance avec Villa Pamplemousse de fonction. Vous voyez, ça se remplit doucement, mais on avance.
Mais attendez, c'est vraiment ce qui est marqué là sur toutes les pages?
Ah ben bien sûr. Enfin, sur toutes les pages, non, j'ai pas encore fini de les remplir. Mais de remplir le
mais
livre.
Monsieur Balkany, c'est pas pour vous, hein. C'est pour les citoyens, pas pour vous. C'est pas à vous d'écrire dedans.
Pour les citoyens.
Bah oui.
D'accord. Non, je me disais que c'était génial comme idée d'envoyer un cahier de doléances au maire. Donc pour une fois, voyez, j'étais d'accord avec Macron. Donc c'est pas pour... d'accord. Alors attendez, un instant.
Il y a Isabelle qui est avec vous là, non?
Oui, attendez. Isabelle, t'as toujours le cahier là?
Bah oui, j'ai le cahier. Là, j'en suis à légaliser le trafic d'influence. Pourquoi?
Bon, tu vas rire, Isabelle. Bon, c'est loufoque. Isabelle, on s'est mélangé les crayons. C'est pas le maire qui doit écrire dedans.
Et alors?
C'est les citoyens.
Je suis pas maire. Je m'en fous, j'écris ce que je veux. Je suis citoyenne avant tout.
Ah, mais c'est vrai que t'es citoyen, oui, c'est vrai. Ben voyez, madame Julie, tout s'arrange.
Comme
en fait, Isabelle est citoyenne, donc on va s'arranger, on est complémentaires.
Eh ben voilà, tout s'arrange chez les Balkany, une fois de plus. Allez, on va en venir à l'acte 9 des Gilets jaunes qui s'annonce, donc ça fera un samedi de plus. La dernière manifestation a été marquée par des violences à Saint-Germain-des-Prés. Guillaume Durand, vous êtes journaliste, chroniqueur mondain. Ça vous a affecté, ça, hein, le 6e arrondissement
sur
de
Radio
Paris.
Classique, vous pourriez faire un petit peu de pub pour ma radio. Je viens chez vous gentiment. Écoutez, ma chère Julie, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute.
Mm-hmm.
Bonjour à tous. Écoutez, ça m'a profondément touché. Les Gilets jaunes, écoutez, franchement, faites péter tout si vous le souhaitez, mais pas Saint-Germain-des-Prés. Hein, faites péter la banlieue, le 18e éventuellement, le 19e, de toute façon... On verra à peine la différence. Mais
oh, allez, arrêtez.
De grâce, laissez-nous le 6e arrondissement et le café de Flore.
Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer, cher Guillaume ?
Oui, écoutez, alors, je remarque qu'il y a une solidarité entre pauvres, entre gens qui souffrent. Donc, j'appelle à une solidarité entre gens qui sont riches. Voilà. Alors, je n'ai pas encore le nom du mouvement. Vous rappelez, en janvier 2015, on disait tous « je suis Charlie mm-hmm. ». Donc, je voudrais trouver quelque chose qui sonne, je ne sais pas, moi. Il y a par exemple « Je suis blindé ».
Je suis blindé, c'est votre slogan.
Ça me semble bien, écoutez, vous l'avez repris spontanément. Voilà.
Je suis blindé, bon.
Écoutez, être blindé en France en 2019, c'est un petit peu comme être... Comment dire, comme être noir aux États-Unis dans les années 50 ou arabe en France dans les années 70. Écoutez, c'est une souffrance au quotidien d'être blindé. Nous, les blindés, nous souffrons aussi.
Oui.
Vous savez, si on me crame le café de Flore, je suis capable de demander l'asile politique à Monaco.
Guillaume Durand dans ses œuvres. Allez, la cagnotte Litchi en soutien aux forces de l'ordre a dépassé le million d'euros.
Je suis né trop tôt. Hein.
Ah, Nicolas Barré. Décidément, ça vous aura marqué, hein, ces histoires de cagnottes. Comment ça, vous êtes né trop tôt ?
Si seulement il y avait eu les cagnottes Litchi quand j'étais petit.
Oui.
Si j'avais reçu un million à chaque fois que je m'étais fait taper dessus, j'aurais été millionnaire à 12 ans. Ah. Aujourd'hui, je serais sur un yacht en train de verser du champagne sur des gros nichons. Oh, oh pardon, j'ai dit un gros mot.
Allez, non, Nicolas, s'il vous plaît.
J'ai dit un gros mot.
Allez. Est-ce qu'on peut avoir votre avis d'économiste, hein, sur cette cagnotte pour la police ?
Oui, moi, cher Julie, écoutez, c'est un élan de solidarité fantastique. Les citoyens versent de l'argent pour rémunérer les gens qui les protègent. On pourrait appliquer ce système de cagnotte Litchi collective à l'échelle de l'État. J'ai même trouvé le nom. Ah. Ça s'appellerait les impôts. Ben oui, c'est bien la peine de gueuler contre les impôts toute l'année si c'est pour inventer vous-même les impôts. Ouais, je sens qu'en disant ça, je vais me faire taper dessus encore. Hein. C'est pas... Mais bon, ça va peut-être me rapporter un million.
Allez, merci Nicolas Barré. Allez, on va reparler plutôt de l'autre cagnotte, hein, celle destinée au boxeur Christophe Détinger, dont le versement sera encadré, mais qui a rapporté quand même 120 000 euros. Une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission par un jeu et on accueille pour cela Jean-Pierre Foucault.
Oui, bonsoir ma chère Julie, bonne année, bonsoir à tous, bonsoir à Jean-Michel Apathy qui nous exprime notre solidarité après ce petit souci qu'il a avec un journaliste. On est avec lui. Eh bien écoutez, bienvenue dans notre nouveau jeu de la Française des nœuds. Qui veut coller des marrons en jouant ensemble, chère Julie, attention, la question n'est pas simple, mais c'est pour gagner une coquette somme, une prime de 120 000 euros en janvier. Mmh. Donc, comment faire pour gagner 120 000 euros en janvier? Voici nos propositions. Je vends des steaks hors de prix tous les jours à Franck Ribéry. Réponse A. Je deviens joueur de Ligue 1. Même si je n'ai jamais joué au foot, je peux toujours devenir attaquant de l'OM et moi aussi rater de belles occasions pour 120 000 euros par mois. Réponse B. Je travaille honnêtement, le SMIC étant à 10 euros de l'heure, il me suffit de faire 12 000 euros supplémentaires pour atteindre cette coquette somme. Réponse C. Ou alors, je défonce le premier flic censé protéger les miens dans la rue et des gilets jaunes en difficulté financière vont spontanément me donner 120 000 euros de leur poche. Réponse D. Attention, un petit indice, je vous aide, je suis généreux aujourd'hui. Oui. La réponse est totalement con, chère Julie.
Ah, bon. Alors moi je dirais, je deviens attaquant de l'OM. Réponse B.
C'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Mais non, c'est dommage, c'était la réponse D. C'était « Je défends ce premier flic censé protéger les miens dans la rue ». Vous avez dit, après réponse, c'était pas facile à trouver. C'était pas évident. Voilà, je vous laisse ma chère Julie, je vous embrasse à tous.
Allez, merci Jean-Pierre Foucault, à bientôt.
Merci Nicolas Canteloup, à lundi, 8h40. Merci aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.
Et retrouvez Nicolas Canteloup quand vous le souhaitez grâce au podcast sur europe1.fr.
Avec Wendy Bouchard à partir de 9h, ma chère Wendy. Dans le tour de la question, vous êtes sur quel dossier ce matin ?
Bonjour les amis, sur un dossier qui est une bête noire pour les journalistes que nous sommes, parce qu'il faut traquer la vérité. Pour les politiques, parfois ces rumeurs les font tomber. On va parler des fake news, qui ne concernent pas que le domaine politique. Évidemment, tous les domaines de réflexion sont concernés aujourd'hui, de la santé à la justice. Les fake news qui alimentent un climat de défiance, ça c'est sûr, et qui font parfois donc tomber des personnalités. C'est au cœur d'un roman d'anticipation politique passionnant, coécrit par Robert Namias et par Michel Cotard. Qui seront mes invités. On vous donne la parole sur le sujet et puis on parlera ensuite de la pollution plastique. 2 ans après l'interdiction des sacs plastiques à usage unique dans les différents commerces, c'est loin d'être appliqué. Là encore, vous réagissez.
On vous retrouve avec grand plaisir, ma chère Wendy, à partir de 9h sur notre antenne. Il y aura aussi la météo avec Laurent Cabrol et l'essentiel de la matinale. Tout ce qu'on a dit, partagé, entendu depuis 6h50 ce matin. A tout de suite.
Il est 8h51. Il est 8h53 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas.
On a fait un point sur le froid avec vous, mais ce week-end, il fera quel temps, mon cher Laurent Cabrol ?
Bah, un petit peu moins froid. On ne sera pas folichon quand même. Il faut dire que pour la journée de samedi, nous aurons encore des chutes de neige à basse altitude dans les mêmes secteurs qu'aujourd'hui, sur les Vosges, sur le Jura, sur une partie du Massif central. Et le reste de la France sera sous un ciel couvert. Dimanche sera vraiment une sale journée. Pas mal de pluie pratiquement partout, excepté près des côtes de la Manche. Oui, ça n'a pas envie beaucoup. Ça donne envie de rester au lit surtout. Puis 50-60 km/h le vent sur la Manche et 100 km/h pour dimanche sur la Méditerranée. Vous voyez que nous avons encore le vent qui vient nous gâcher la vie parce qu'il accentue l'impression de froid, même si samedi et dimanche il fera un peu moins froid qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, je vous donnerai tout le détail de la semaine dans notre prochain rendez-vous à 10h. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, sachez que les températures vont s'échelonner entre 1 et 12 degrés, 1 degré à Épinal, 3-4 à Dijon, Strasbourg, Nevers, Nancy, Lyon, Nevers où il faisait tout à l'heure moins 8 degrés, ça va monter, vous voyez, à 4 degrés. Alors il fera plus 5 à Toulouse sous abri cet après-midi, 7 à Paris, 8 à Lille, 9 à Rennes, 10 à Marseille. Et les régions neigeuses, je les ai indiquées tout à l'heure, Vosges, Alsace, il y a Dijonais, Lorraine, et les régions à pluie sont celles de la Manche et de la région parisienne, et puis ailleurs dans l'extrême sud, ce sera un temps souvent couvert, avec malheureusement le fameux vent. Mistral et Tramontane sont toujours là. Voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le vendredi 11 janvier, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater ce matin. J-1 avant une 9e journée de mobilisation des Gilets jaunes. On l'a entendu ce matin, un peu partout en France, des manifestations se préparent à Bourges, à Saint-Brieuc, à Paris ou encore à Marseille. Et les forces de l'ordre sont sur les dents. À 7h45, tout à l'heure, je recevais le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. C'est lui qui a lancé l'idée de la cagnotte sur Internet en soutien aux forces de l'ordre. On l'écoute.
Près d'1,5 million d'euros, je pense que c'est un clin d'œil amical aux forces de l'ordre. Eux, ils n'ont pas eu de vacances, ils n'ont pas eu de week-end, ils n'ont rien eu, si ce n'est des coups sur la tête. Et bien là, ils ont un témoignage de la France qui leur fait peut-être sûrement chaud au cœur en ce début d'année. Je vois et j'entends le maire de Bourges qui s'inquiète. Je vois et j'entends les commerçants qui sont dans leur cas, dans leur premier week-end de solde et qui ont envie de commencer de travailler, qui en ont assez de la casse, de la destruction et de la voyoucratie dans ce pays.
C'est l'un des points noirs qui cristallise la colère des Gilets jaunes, l'épineuse question des péages autoroutiers. Eh bien, les tarifs doivent augmenter au 1er février entre 1,8 et 1,9%. Alors, pour désamorcer la bombe, le gouvernement tente d'obtenir un geste de la part des sociétés d'autoroutes. Écoutez, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, elle était l'invitée d'Audrey Crespo-Mara tout à l'heure à 8h15.
Je leur demande un effort. Un certain nombre de Français prennent les autoroutes tous les jours pour se rendre au travail.
Mais quel effort leur demandez-vous précisément ?
Écoutez, moi j'aurais demandé leurs propositions, je les vois lundi.
Vous les voyez lundi et si les sociétés d'autoroutes ne font pas ce geste ?
Elles ont annoncé qu'elles avaient entendu que le gouvernement leur demande des propositions. Les sociétés d'autoroutes doivent entendre et effectivement faire un effort pour le pouvoir d'achat des Français.
Et à 7h40, Jean-Michel Apathy était en studio avec nous. On est revenu avec lui sur cette vidéo qui a fait le tour du web depuis hier, où on voit Jean-Michel Apathy pris à partie par une personne qui le filme à son insu et qui se revendique journaliste gilet jaune. Réaction de Jean-Michel ce matin.
Son propos principal, c'était de dire que je défendais les puissants, les milliardaires, que moi-même j'étais un
millionnaire. Vous étiez millionnaire, enfin, oui.
Tout un tas de fantasmes stupides, bien sûr. Mais c'est ce type de propos qui fait que des journalistes sont agressés. Ça aboutit à ces discours d'abrutis qui nous menacent, mais s'ils ne menaçaient que nous, à la limite, on s'en défendrait. Mais ils menacent la démocratie et ça, il faut que nous en prenions tous conscience pour que ça cesse.
Merci de votre confiance. C'est le week-end demain, vous retrouverez Bernard Poiret dès 6h sur l'antenne d'Europe 1. Merci à toutes les équipes techniques, éditoriales. Bonne journée à notre écoute. Dans quelques secondes, Wendy Bouchard, le tour de la question. Et je vous dis Céline Dacosta à lundi.
Avec grand plaisir, Nico,
Julie
à lundi.
Aussi à lundi.
Bon week-end les amis, merci à
vous. À vous Wendy.